Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver hein, comme tous les lundis, dorénavant 19h, 20h30. On va avoir beaucoup de choses à vous raconter aujourd'hui. Hein, on a une riche semaine de foot, on parlera aussi un tout petit peu de basket en fin d'émission avec notre ami Abou que je salue. Ça va Abou ?
Salut Philippe, ça va et toi ?
T'as beaucoup travaillé cette semaine, hein,
ouais, c'est vrai que...
puis le basket hier.
C'est vrai, j'ai couvert deux beaux matchs. Après, c'est le métier de journaliste, hein. C'est un avantage hein, de couvrir deux matchs, franchement, c'est là où on se rend compte.
Nous
la beauté de notre
métier. Hein.
C'est ça, voilà, exactement.
Voilà. Et bien, on va saluer aussi celui qui va nous accompagner dans la première partie de cette émission pour tout savoir sur l'actu foot. C'est notre ami Eladji. Ça va, Eladji ?
Ça va et toi, Philippe ?
Ouais, pleine forme ?
Ouais, super.
T'as vécu une belle semaine de Coupe d'Europe ?
Une belle semaine, ouais.
Ouais, bon, très bien. Et puis, il est notre invité. Alors, on devait avoir le président Ferracci hein, pour le Paris FC. Et puis, bon, le président donc, nous a appelé, s'est excusé. Il y a la soirée du Ballon d'Or. Donc, il a demandé donc, à ce qu'il vienne un peu plus tard dans notre émission. On l'aura dans le courant du mois de janvier et février. Et du coup, on s'est dit, tiens, on va parler des agents de joueurs. Eh bien, on est content. On en a reçu un ce soir. C'est Julien Girafi. Bonsoir, Julien.
Bonsoir.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Parce que je vais tout vous dire, en préparant cette émission, j'ai appelé au moins une dizaine, quinzaine d'agents de joueurs. Vous êtes pratiquement le seul qui avait accepté de venir. Pourquoi ? C'est bizarre quand même.
Bah écoutez, je suis ravi d'être là avec vous. Pourquoi ? Parce que je trouvais ça intéressant de pouvoir en discuter.
Oui.
Personnellement, je n'ai pas forcément d'expérience en radio. Et
bah vous allez voir, ça va bien se passer.
Bah, écoutez, il n'y a pas de raison.
Hein. Ouais. Alors justement, on devait aussi avoir le président, hein, le directeur donc, de l'école EAJF, que vous connaissez sûrement, à Neuilly-sur-Seine, Ciné Bruninowski. Bah, lui aussi, bizarrement, il s'est décommandé ce matin, donc tant pis. Tant pis, mais enfin, on essaiera d'en savoir un peu plus sur comment devenir agent de joueur dans le monde du foot. Et puis, en principe, on doit aussi avoir le président de la section Paris Féminin Football 13 de Futsal, Felipe Rocha dos Santos. Donc, on l'attend d'un moment à l'autre. Et puis, on parlera aussi sport mécanique en fin d'émission avec notre ami Valentin. Alors, messieurs, l'actu foot de la semaine, Eladji, on va commencer avec donc, ce match du Paris Saint-Germain. Est-ce que vous avez un club fétiche ? Ou alors, est-ce qu'on doit être au-dessus de la mêlée quand on est agent de joueur ?
Alors, en tant qu'agent, on doit être au-dessus.
Comme nous, hein.
Mais
comme nous les journalistes.
On a tous un attachement particulier à un club.
Ouais.
Donc, moi, c'est l'Olympique Lyonnais. Ouais.
D'accord, ok. Alors, justement, on parlera après de l'actu foot. Comment on arrive le foot, c'est une vieille passion d'enfance. Vous avez joué comme nous tous, un petit peu, au foot ?
Comme tout le monde, j'ai joué jusqu'à mes 15-16 ans. J'avais pas un niveau terrible,
vous
on
avez
va dire.
Joué où ? À quel endroit ?
J'ai joué à Championnet, dans le 18e arrondissement.
D'accord.
Donc, un petit club de quartier. Donc, on a joué à pas un super niveau. Et puis, la passion est là, elle continuait. Mais bon, d'autres plaisirs, d'autres activités à cette période de ma vie. Et puis, la passion étant là, on revient toujours à cette passion.
Bah, c'est comme nous, hein, quand on ne devient pas footballeur professionnel, aussi un journaliste. C'est pareil pour vous, vous êtes devenu agent de joueur, c'est ça ?
On cherche d'une manière ou d'une autre à revenir vers la passion et trouver justement comment pouvoir travailler dans ce milieu-là.
Très bien. Alors, messieurs, Eladji, Abou, semaine de Coupe d'Europe. Autant on avait vu un super match à l'aller entre le Paris Saint-Germain et Benfica, 1-1, un match qui aurait pu faire 2-2, 3-3, qui aurait pu être gagné par Paris ou Benfica. Autant sur ce match retour, on s'est quand même sérieusement ennuyé. Une histoire de pénalty, un partout à nouveau. Même si ça ne change rien donc au niveau du classement.
Ça ne change rien au niveau du classement, en sachant que la Juventus ont perdu sur le terrain de Halifa. Du coup, non, pour Benfica et le PSG, ça sera très dur de les détrôner entre guillemets. Je pense que c'est les deux qui seront qualifiés. Et c'est un match moyen. Après, dans quel ordre, on verra bien. Ça sera plus sur la différence de but.
Alors, pour l'instant, Paris Saint-Germain mène parce qu'ils ont simplement un but d'avance. Il y a la même différence de but.
C'est ça.
C'est pareil au goal average particulier. Donc, il y a juste un petit but de plus pour le Paris Saint-Germain. C'est ce qui fait que PSG est en tête devant Benfica.
C'est ça. Bon, je pense qu'ils vont pas. Je pense qu'ils vont garder leur avance aussi, en sachant que bon, ils ont joué Benfica, ils ont joué à l'IFA à domicile. C'était ça. Ils ont joué à l'IFA à domicile. Du coup, là, ils devront se déplacer là-bas. Ça sera difficile. Le PSG, ils reçoivent maintenant à l'IFA. Ils vont jouer à la Juventus aussi.
Ouais. Une équipe de la Juve qui semble pas terrible, hein, parce que l'IFA a gagné 2-0 justement.
Une équipe de la Juve qui est plus dedans.
C'est à la fois la Juve qui est pas terrible, mais également l'IFA qui fait des bonnes prestations.
Ouais, ils font des bonnes prestations.
La première mi-temps contre le Paris Saint-Germain était plutôt intéressante de leur part.
Moi, je l'ai vu le match. Je me suis dit, le PSG, ils vont pas s'en sortir. Franchement, comment c'était parti, comment c'était embarqué. Voilà quoi.
Ils mettent tout sur le terrain, hein. Ils sont déterminés. C'est une opportunité unique, hein, pour eux de jouer contre ces clubs-là. Donc,
c'est ça, bien sûr.
Bien sûr. Donc ça veut dire qu'il faudra faire attention la semaine prochaine pour le match retour qui va avoir lieu au Parc des Princes quand même. Hein. Ils ont gagné 3-1 le match aller, on s'en rappelle. Hein.
Oui, faire attention, oui et non. Paris, s'il est à la moitié de son niveau, devrait gagner quand même. Mais voilà, c'est la Coupe d'Europe, ça reste des matchs compliqués. Voilà. On ne peut pas négliger même cette équipe-là.
En sachant que l'IFA, maintenant, comme ils sont égalité avec la Juve, ils vont quand même se battre pour la place de Ligue Europa. Oui, ils voudront aller en Ligue Europa. Voilà, du coup, ils vont jouer jusqu'au bout. Il faudra faire attention quand même.
Paris Saint-Germain et Benfica en tête avec 8 points. Troisième, la Juve et l'IFA, 3 points. Donc, c'est sûr, ça sera en tout cas une de ces deux équipes. Ça sera ces deux équipes, Benfica et Paris Saint-Germain, qui seront donc en 8e de finale.
C'est ça. Officiellement, non, mais officieusement, mais je pense que voilà, il manque plus qu'un point à chacun. Du coup,
Alors, on ne va pas parler des rumeurs qu'ont couru cette semaine sur Kylian Mbappé, qui a remis les choses
au clair.
Ouais, au clair hier. Hein.
Voilà. Il a remis les choses au clair hier. Du coup, je pense qu'on peut zapper ce sujet.
Ouais. Quel intérêt de lancer de telles rumeurs comme ça? Parce qu'on y a cru, toute la presse a repris.
Vendre du papier.
Cette rumeur.
Quel intérêt pour qui?
Même les journaux disent sérieux.
Les journaux, de toute façon, sérieux ou pas, il y a matière à parler, ils s'en servent, c'est logique. Hein. Et nous, les premiers, quand on voit l'article apparaître, on clique et on regarde ce qui se passe. Donc, on peut en penser ce qu'on veut, c'est logique aussi que ça sorte. Hein,
mais ce qui est fou, c'est qu'on a quand même certains confrères qu'on connaît bien, qui ont été très affirmatifs. Quoi, hein. On ne va pas les citer, ils travaillent sur des radios concurrentes, mais ils ont été très affirmatifs en disant qu'il y avait un problème avec Kylian Mbappé, puis finalement, non.
Parce qu'ils ont certaines sources. Les sources, est-ce qu'elles sont fiables ou pas? Ça, c'est toujours le débat. Mais ils ont des sources qui leur indiquent certaines choses. Et même si Mbappé a clos le débat, les rumeurs viennent rarement d'elles-mêmes. Donc, il y a peut-être des matières à discuter. Sur quoi, sur quel sujet il est coupable
son
ou pas coupable?
Son positionnement,
c'est compliqué. Son positionnement, il a lancé le débat lui-même. Hein,
oui, bien sûr.
Parce que là, c'est facile un peu de lancer la pierre sur les journalistes. Mais à un moment donné, quand vous êtes autant de journalistes à vous mettre d'accord sur une information et qu'elle sort, forcément, il y a quelque chose. Les journalistes ne vont pas non plus s'amuser à jeter en pâture Kylian Mbappé, sachant que derrière, ils auront aussi besoin de ce joueur-là quand ils auront besoin d'une interview particulière, ou etc., etc. Donc, si l'info elle est sortie, c'est bien qu'elle a fuité de quelque part. Après, à qui profite le crime? Ça, c'est la question qu'il faut se poser.
Et puis, ce qui est sidérant quand même, c'est que c'est ce qu'on a appris aussi avec la surveillance sur Twitter. Quoi. Ça paraît incroyable, mais dans quel monde on vit quand même?
Chacun protège ses intérêts.
Oui, on imagine, nous salariés, être donc suivis par notre employeur et puis voilà.
Et c'est sorti par un journal fiable, hein, Mediapart, quand il s'agit de sortir les grosses affaires, Mediapart c'est quand même assez sérieux. Et donc, mais moi cette histoire pour moi elle est pas finie. Autant il a éteint l'incendie là pour le moment, autant attendons de voir dans les semaines ou les mois à venir ce qui va se passer réellement.
Allez, on va parler du deuxième match. Ça fera plaisir à notre ami Abou, donc, puisque Marseille, qui avait battu le Sporting 4-1, est allé gagner dans ce match retour 2-0 au Sporting. Du coup, Marseille, suite à la victoire de Tottenham devant Francfort 3-2, se replace. Tottenham 7 points, deuxième Marseille, Sporting 6 points et quatrième Francfort 4 points. C'est-à-dire que Marseille, qui a encore les deux premiers matchs, n'y croyait plus. L'espoir, il est revenu de pouvoir se qualifier pour les 8e comme le PSG.
C'est ça, Marseille qui prend 4 points de plus en 2 matchs que Monaco depuis 3 ans en Ligue des Champions. Hein. On parle souvent de les clubs français en Ligue des Champions, toujours Marseille nous humilie, etc. Ben Marseille, en 2 matchs, ils ont pris 4 points de plus que Monaco sur leurs 3 dernières participations. Est-ce que vous vous en rendez compte, monsieur Carnu?
Oui,
4 points de plus, c'est incroyable, incroyable.
Et mais comment on explique cette
calme-toi, Marseille, ça fait combien de temps que vous n'avez pas pris de points non plus? Vous aussi, on peut compter sur 10 années. Là, le nombre de points que vous avez pris, vous ne l'avez pas pris sur 10 années. Voilà.
D'accord. Après,
voilà, mais c'est encore pire.
Sur 10 années, du coup, on n'a pas participé sur les 10 années.
Non, mais je pense que voilà, vous avez gagné 2 matchs.
Voilà,
c'est pas vous, les Marseillais ont gagné.
D'accord,
deux matchs.
Les Marseillais ont
gagné. Je suis pas président du club.
D'accord, ok, non. Hein,
bah oui, je suis pas président du club. Les Marseillais ont gagné deux matchs.
Les Marseillais ont gagné deux matchs. J'ai envie de te dire des matchs un peu truqués avec des cartons rouges à chaque fois.
Vous laissez tenir de tels propos sur votre antenne, monsieur Carnu. On parle de matchs truqués, attention,
monsieur Carnu. Deux cartons rouges au match retour.
Deux cartons rouges amplement mérités.
Voilà. Oh, non, absolument pas.
Parce que déjà, le premier.
C'est un gros scandale.
Déjà, le premier, c'est un deuxième carton jaune.
Non.
C'est un deuxième carton jaune.
Le premier, c'est un deuxième carton jaune. Avec le penalty,
c'est un deuxième carton jaune. Si, c'est un deuxième carton jaune.
Avec le penalty sifflé. Il a sorti rouge direct.
Non, c'est un deuxième carton jaune.
Il a sorti rouge.
C'est un deuxième carton.
Il a sorti deux jaunes, mais d'affilée.
Il fait un rouge.
C'est-à-dire que je pense que c'est pour.
Non, ça c'est sur le deuxième carton.
Non, ça c'est sur le deuxième.
Sur le deuxième, effectivement.
Mais comment on peut expliquer cette métamorphose quand même à bout? Parce que c'est vrai que ça n'avait pas très bien commencé les deux premiers matchs.
Moi, sur le match, le match contre Tottenham, moi je trouvais une équipe de Marseille assez dominatrice sur la première période. Il y a ce carton rouge de Chancel Mbemba, là où personne parle de ce carton rouge là. Pourtant, il y a un carton rouge pour l'OM aussi. Et Tottenham finit ce match à 11 contre 10, donc forcément ça vous plombe.
Moi, je pense...
Le deuxième match contre Francfort, c'est réellement un non-match. Il n'y a pas de. Voilà, Francfort sont venus. On a eu des Marseillais qui n'étaient pas dedans. Donc voilà, après, il y a ce match contre Sporting où. Tu sais que si tu perds, c'est fini pour toi. Ce match aller avec les, comme on dit, hein, Adane qui offre le match aux Marseillais, ça on peut le dire sur le premier match. Et sur le second match, les Marseillais ont été nettement meilleurs contre le Sporting. Et je pense qu'il y a aussi cette pression-là des joueurs du Sporting qui viennent de perdre ce premier match et qui se disent,
excuse-moi,
c'est compliqué. T'as vérifié ou pas ? T'étais en train de vérifier.
Oui,
j'ai un deuxième carton jaune.
C'est un deuxième carton jaune, oui. Ok, c'est un deuxième carton jaune. Ok, mais je pars dans l'optique où déjà le penalty a été généreux et un deuxième carton jaune sorti. Pas... En sachant qu'il y a déjà un penalty et un deuxième carton jaune qui est synonyme de carton rouge, donc ça fait carton rouge plus penalty. C'est
on
gros.
On va refaire le match. Tu parlais de match truqué.
Pas de problème.
On va pas refaire le match.
D'accord, il y a pas de problème.
Moi, c'est-à-dire on annule.
En fait, ce qui a changé, Philippe, moi, je vais t'expliquer ce qui a changé. Ils ont essayé, les premiers matchs, on a vu, hein, ils ont essayé deux matchs de jouer sans passer par l'arbitre ou sans toucher un, deux, trois mots ou un, deux, trois billets à l'arbitre. Ils ont vu comment ça a fini. Premier match, ils ont perdu contre Tottenham 2-0. Deuxième match, ils ont perdu à domicile contre Francfort 1-0. Ils se sont remis à discuter avec l'arbitre. L'autre match, carton rouge pour Sporting. Et l'autre match, double carton rouge pour le Sporting. Je pense que c'est assez clair.
Quand les débats atteignent ce niveau-là, c'est vraiment qu'il n'y a pas d'argument.
Il n'y a pas
d'argument.
Quand les débats tombent aussi bas, c'est qu'il n'y a pas d'argument. Sérieusement, quand on parle de trucage, il n'y a plus de discussion sérieuse. Pour revenir plus sérieux, parce que là, tu as dit deuxième match, vous avez été nettement au-dessus. Excuse-moi, mais le Sporting ont pris un rouge depuis la 19e minute. Ensuite, ils ont repris un rouge.
On va provoquer le
rouge. Écoute-moi, mais attends, mais laisse-moi terminer
le rouge. On va le provoquer. Amine Harit provoque et rentre dans la surface de réparation.
À la 50e minute. Même pas avant la 50e minute, il prend 60e minute, je pense. Il prend le deuxième rouge. Du coup, vous retrouvez à 11 contre 9. Vous n'avez pas réussi à mettre un but en plus de 30 minutes.
Mais parce que l'intérêt, après, c'est plus de marquer.
Mais si, ça compte. Puisque la différence de but, vous pouvez sortir.
Mais la différence de
but,
mais pas contre le Sporting. Le Sporting, on peut avoir même moins 10 ou eux plus 15.
Oui, mais que contre le Sporting.
Au goal average particulier, on est devant le Sporting.
Mais contre Francfort et contre Tottenham, vous sortez. Excuse-moi, mais vous tombez contre une équipe et là, ils sont à 9. Vous êtes obligé d'appuyer dessus et d'empiler les buts. Donc, vous avez pas été nettement au-dessus. Bon, 2-0 à 11 contre 9, excuse-moi, mais c'est un score léger.
Il reste deux matchs. Marseille peut le faire et accompagner le Paris Saint-Germain en 8e de finale.
Marseille peut le faire, oui. tout est encore possible, le groupe est serré.
C'est vrai que...
Moi, je suis plutôt côté Abou sur le coup, parce que je pense que Marseille a mis les ingrédients qu'il fallait. Oui. Les cartons rouges, effectivement, c'est une aide, mais en soi, ils sont pas incroyables et je pense que Marseille a fait ce qu'il fallait pour aborder le match avec volonté, etc. Le seul match, effectivement, c'est contre Francfort, où ils n'ont pas été là du tout. Mais par contre, contre Tottenham et les deux fois contre Sporting, ils abordent le match en étant conquérants, en ayant envie, la volonté vraiment de faire le travail et de bouger les choses. Et derrière, ils sont récompensés. Alors effectivement, avec des circonstances favorables. Mais ça fait partie aussi du jeu. Marseille a été défavorisé contre Tottenham en prenant un rouge, ce qui est logique. Et ils ont bénéficié de ça après. Donc je pense que Marseille a sa place aujourd'hui.
Voilà.
Sage parole. Ouais. Parfait. Rien à ajouter.
Il reste deux équipes, ce serait parfait.
On verra bien si
deux équipes
qualifiez.
Passent pour les huit en, en huitième de finale, hein, comme le foot français en a un petit peu perdu l'habitude depuis quelques temps.
Hein. On leur souhaite en tout cas aux deux équipes, même pour l'indice UEFA français, c'est important que les deux équipes aillent en huitième de finale.
Bon, en Ligue Europa, ça s'est moins bien passé, sauf pour Rennes, hein, qui a déjà pratiquement assuré sa qualification. Rennes qui est allé gagner à Kiev 1-0, ils avaient gagné le match aller 2-1. Donc les Rennais en tête avec 10 points à égalité avec Fenerbahçe. Troisième, c'est Larnaca, 3 points. Et quatrième, Kiev, 0 points. Donc c'est pratiquement la seule équipe française qui a déjà assuré son billet pour les 16e de la Ligue Europa.
Ouais, depuis quelques années, c'est rarement décevant en Europe. Ouais, Rennes, c'est vraiment très solide. Le coach, il est solide. L'équipe, elle est solide. Il y a un bon mixte entre les jeunes et les plus anciens. Il y a un bel équilibre dans cette équipe-là. Et franchement, et il nous montre en tout cas qu'on peut réussir en Europe sans forcément mettre un paquet d'argent. Parce que les clubs français, c'est toujours ça qui les freine. Oui, mais on n'a pas assez de sous pour performer en Europe. Et bah, Rennes nous montre qu'on peut réussir sur les deux tableaux.
Je dirais oui et non. Parce que finalement, Rennes a quand même investi beaucoup plus ces 5 dernières années qu'auparavant.
C'est ça.
Donc, ils ont des joueurs. Donc finalement, aujourd'hui, on voit les choses s'inverser un peu. On parle souvent de Lyon qui est en difficulté, etc. On regarde au niveau des transferts, Rennes a été capable d'investir beaucoup plus et de mettre des 15 millions sur des joueurs qu'il ne faisait pas avant. Donc Rennes aujourd'hui a les moyens aussi de ses ambitions, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, ils faisaient une bonne saison, la saison d'après, c'était plus compliqué parce qu'ils revendaient directement. Mais là, ils ont gardé une stabilité.
Depuis 2-3 ans, ils sont réguliers, notamment au niveau Coupe d'Europe, pour les voir aller un peu plus loin en Ligue Europa. On se rappelle l'année où ils ont été éliminés sans démériter face à Arsenal.
Effectivement, ils font une super campagne cette année-là. Cette année, ça peut être aussi une très belle histoire pour eux s'ils ils continuent à faire des résultats. La problématique, c'est que les autres clubs, malheureusement, montrent de mauvaises choses.
Ouais, justement, c'est une question qu'on posait souvent. La Ligue Europa, on disait que les clubs français n'étaient pas très concernés dans le passé. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que c'est quand même la Coupe d'Europe des 4e, 5e, quand même, la Ligue Europa.
Pas très concernés parce qu'ils avaient conscience qu'ils n'avaient pas les moyens forcément d'aller très loin dans la compétition, et même en donnant tout, la difficulté, c'est qu'on le voit avec une équipe comme Nantes cette année. Nantes a surtout le maintien en tête, et malheureusement, il faut faire des choix à ce moment-là. Et le choix, si c'est de privilégier la Coupe d'Europe plutôt que le championnat, Nantes peut se retrouver en Ligue 2 l'année prochaine et galérer à y retourner en Ligue 1. Donc la complexité est là. En général, les bonnes équipes, quand ils se qualifient en Coupe d'Europe, ils vendent 3-4 joueurs importants de leur effectif. L'année d'après, on n'a pas la capacité. Comboiré a fait la demande d'avoir plus de joueurs, un effectif plus étoffé. Il n'a pas pu l'avoir. Aujourd'hui, on voit le résultat.
Voilà. C'est un peu le contraire de ce que tu disais, Abou, parce que tu disais, on montre maintenant qu'on peut ne pas acheter de joueurs, etc., et réussir en Europe. C'est faux. C'est faux et c'est complètement faux. Vous-même qui réussissez en Europe aujourd'hui.
Mais c'est qui vous?
Marseille.
Mais je suis
quand je dis vous, c'est Marseille.
Je n'ai pas de part dans ce club. Ouais, j'aimerais. J'aimerais avoir des parts dans ce club, mais je n'en ai pas.
D'accord. Mais maintenant, moi, quand je vous dis vous, en tant que supporter et joueur et tout ce que tu veux de Marseille, voilà. Du coup, vous avez quand même investi énormément et vous avez recruté énormément ces dernières années sur des recrutements que vous ne faisiez pas les saisons d'avant. Comme Rennes, maintenant, ils investissent autant sur trucs. Nantes, leur problème, c'est quoi? Ils ont gardé Ludovic Blaise, ils ont gardé Lafont, etc. Ils se sont dit, on garde nos joueurs, c'est bien. Ils ne se sont pas dit, non, ils ont dit, on garde nos joueurs, c'est bien. Ils n'ont pas dit, on achète de nouveaux joueurs, etc. Parce que là, maintenant, il y a l'Europe en plus. Or que l'année dernière, ils n'ont joué que la Ligue 1. Avec des joueurs comme ça, ok, ils ont réussi à avoir une place en Europe, c'est très bien. Mais maintenant, vous êtes obligés d'acheter des joueurs. Eux se sont dit, non, on garde nos joueurs et ça va le faire. Ils ont gardé des joueurs. Mais c'est pas acheter de nouveaux joueurs, c'est pas essayer de faire tourner l'effectif. Et ben là maintenant on se voit. Là ils ont gagné dernièrement.
C'est le président Nantais qui a pris cette décision là.
C'est parce qu'Antoine juste une petite boire, il en voulait de nouveau.
Une petite aparté. Rennes quand même. Rennes c'est une équipe qui vend aussi très bien dans la balance vente achat. Rennes ils sont pas en déséquilibre. C'est pas une équipe qui a investi massivement et derrière qui ne récupère pas. Vous avez des joueurs comme Ousmane Dembélé qui sont partis, Kamavinga, Mathys Tel au Bayern c'est 30 millions d'euros. On est avec un agent de joueurs en plus c'est 30 millions d'euros quand même Mathys Tel. Ils ont vendu Naïef Aguerd aussi en Angleterre, je crois que ça part également pour 30 millions. Sur la balance achat-vente, Rennes, c'est un club très équilibré. Donc oui, il dépend sur le marché des transferts, mais pas plus que ça, vu que derrière, il y a un retour sur investissement. Après, pour l'OM, c'est vrai qu'il y a de l'argent qui est investi massivement et il n'y a pas de...
En tout cas, c'est vrai que pour Nantes, c'est pas très 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 bien parti. Hein, championnat un peu difficile et puis défaite assez large. Donc dans ce match d'Europa League, 4-0 à domicile après avoir été battu 2-0 par Fribourg. Dans la journée précédente, donc Fribourg en tête avec 12 points, Karabakh deuxième 7 points, troisième Nantes 3 points, quatrième Olympiakos 1 point. Ça devient très très problématique.
Hein. Ils sont pas derniers.
Non. Mais enfin bon,
on peut
ils vont
quand
jouer
même
à l'Europa conférence alors. Mais enfin quand même.
Très honnêtement, j'aurais presque envie de souhaiter qu'ils soient derniers pour qu'ils puissent se concentrer sur le championnat.
Ouais. Moi aussi, parce que ils vont pas réussir.
Ils n'auront pas l'effectif pour.
En plus, on en parlait hors antenne.
Heureusement, ils n'ont pas encore de blessés. Ouais.
On en parlait hors antenne. Il y a quand même 5 entraîneurs de Ligue 1 hein, qui ont été déjà limogés. Notre ami Comboiré.
Comboiré, c'est un cas particulier. Loin, hein. Avec Nantes, on ne sait jamais trop sur quel pied danser au niveau des coachs. Mais par contre, les 5 entraîneurs virés.
Il y a beaucoup d'entraîneurs à un moment.
Hein. Là, il y a une logique particulière cette année avec les 4 descentes. Les clubs, en plus, il y a une trêve avec la Coupe du Monde, etc. Ouais. Donc les clubs anticipent un maximum et se disent s'il faut virer l'entraîneur, c'est le plus tôt possible. On pourra bénéficier de la trêve pour. Comme Laurent Blanc l'a dit, faire une nouvelle préparation, adapter un peu les choses. Donc, c'est une année très particulière.
Oui,
sinon, l'année dernière, à cette période, il y avait zéro changement d'entraîneur.
Il y a déjà 5 déjà. Hein.
On voit vraiment qu'il y a un impact de cette Coupe du Monde et de cette relégation à 4. Quoi.
Alors, Monaco a été battu aussi assez largement à Trabzonspor 4-0. Ils avaient pourtant gagné 3-1 le match aller. Donc, Monaco, pour l'instant, est deuxième avec Trabzonspor à 6 points. Juste derrière Ferencvaros, premier, 9 points. Le quatrième, c'est l'Étoile Rouge, 3 points. Monaco, ça va être compliqué aussi, messieurs, ou c'est encore jouable ?
Non, moi, je pense que c'est jouable pour Monaco. Je pense qu'ils vont se qualifier. Après, il va falloir faire attention quand même sur les faux pas comme ça.
Les deux derniers matchs, là.
Ouais, prendre 4-0 quand même, c'est un score assez lourd. 4-0, c'est costaud, donc il va falloir faire attention. Mais Monaco, moi, je les vois se qualifier. Je vous l'avais dit la semaine dernière déjà. Je pense que c'est une équipe qui va se qualifier. Mais
oui,
c'est vrai que c'est
dernière,
un peu...
Il n'y avait pas encore eu le match.
Monaco, c'est une équipe un peu bizarre parce que des fois, ils sont sur 3-4 matchs, très bons matchs, puis il y a une rechute comme ça, même là, ce week-end en Ligue 1. Et on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Donc
ils perdent un peu le fil quand ils prennent des buts.
Et ils encaissent à chaque fois, en fait. Monaco, c'est une défense, vraiment. Leur défense est vraiment... Je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais voilà. Ils encaissent pratiquement tous les matchs, ils encaissent des buts.
On le voit quand ils entament bien le match et qu'ils mettent un but assez rapidement. En général, ils arrivent bien à tenir le score, sauf ce week-end, bien sûr. Ce week-end, il y a eu le carton rouge qui change la donne quand même. Mais en général, quand ils arrivent à mettre le premier but rapidement, ils sont difficilement jouables. Par contre, quand ça gagne l'air un peu, dès qu'il y a un fait un peu défavorable, ça peut plonger assez
vite. Avait un coach mental la semaine dernière, est-ce que ce serait pas du fait d'un
15 jours
Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi peut-être une préparation mentale différente, aborder les matchs de manière différente aussi? Parce que si à chaque fois que tu perds, que tu n'es pas dans ton match, tu perds le fil sur tout le match, ça va être compliqué jusqu'à la fin de la saison.
C'est le rôle des entraîneurs et de toute l'équipe qui l'entoure. Hein.
Encore une fois, année particulière, on joue tous les trois jours.
Aussi.
Un effectif comme Monaco, même s'ils se sont renforcés, c'est compliqué de jouer tous les trois jours. Il faut voir les compos à chaque match où ils ont eu des défaites. Moi, je n'ai pas suivi exactement, donc je ne saurais pas dire. Mais peut-être qu'il y a un lien aussi avec les rotations dans l'effectif.
Et le gardien est pas très bon.
Il essaye de faire jouer. Il fait jouer à peu près le même 11 un peu. Bon, là, dernièrement, il y avait Ben Yedder, il était sur le banc parce qu'il n'était pas performant. Il l'a remis depuis, il est performant. Mais voilà, il laisse à peu près au moins 8-9 joueurs à chaque fois pareil. Et il fait quelques rotations. Mais pendant le match, il va faire ses 5 changements. Quoi. Voilà, c'est vraiment ça. Mais par exemple, Abou, la semaine dernière, tu disais oui, la semaine dernière, moi je disais que Monaco va se qualifier. Oui, la semaine dernière, j'aurais pu dire la même chose que toi. Mais là maintenant, après le 4-0 contre Trabzonspor, tu peux plus redire la même chose. Ils vont rejouer contre Étoile Rouge de Belgrade. Étoile Rouge de Belgrade, ils sont 4e, mais ils ont 3 points de différence. Et les battent, ils passent devant. Là, ils sont 3e, Monaco. Ça devient chaud.
Moi,
je les
vois toujours se qualifier.
C'est assez inconstant quand même. C'est difficile avec le français, Chauffrenne.
Neubel est inconstant en fait. Moi je pense plus que la défense de Monaco, c'est vraiment le gardien le problème depuis la saison dernière. Ils ont enlevé Lecomte pour mettre Neubel, mais Neubel il apporte pas grand chose quoi. Il est pas décisif plus que ça et je pense qu'il va retourner très vite au Bayern à la fin de ses 2 ans de prêt.
Et puis la Ligue Europa Conférence, donc la dernière des compétitions. Nice, donc battu à domicile par Slovaco 2-1. Quand je vous ai dit que ce n'était pas la semaine des clubs français en Ligue Europa, ils avaient pourtant été gagnés là-bas 1-0 dans le précédent match. Mais bon, tout reste possible encore pour les Niçois, même s'il y a le Partizan de Belgrade qui est en tête avec 8 points, devant donc Nice 5 points, 3e Cologne et Slovaco 4 points. Donc là aussi, c'est très inconstant d'un match à un autre, mais tout reste possible.
Voilà, ils n'ont pas le droit à l'erreur, tout simplement. Ils n'ont pas le droit à l'erreur. Ils ont encore leur destin entre leurs mains.
C'est bien, ces 3 Coupes d'Europe. Pourquoi avoir séparé la Ligue Europa puis la Ligue Europa Conférence?
Ouais, c'est bien. Il y a du pour, il y a du contre. En tant que téléspectateur, c'est pas très intéressant. Quand on n'est pas supporter d'un club qui la joue, très honnêtement, peu de gens vont la regarder. Hein. À part quelques affiches en demi ou en finale, s'il y en a, et encore, parce que l'année dernière, les meilleurs clubs, c'était Tottenham, c'était ce genre de club. Il y en a qui peuvent regarder, mais ça n'intéresse pas tout le monde. C'est intéressant, oui, puisque d'une certaine manière, il y a toujours une rentrée d'argent quand on se qualifie à une Coupe d'Europe.
Après une Coupe d'Europe, là, c'est la Coupe d'Europe des 7e, 8e à la Ligue, pas conférence maintenant. Hein. Donc, voilà.
Ouais, c'est, ouais, mais donc, c'est ceux des 5e en France. Quoi.
Ouais.
Après, dans certains pays, ça va être les 2e, 3e. Selon les pays.
Aussi.
Et pour eux, c'est génial. C'est vraiment génial. Une possibilité vraiment d'affronter.
C'est pour ça que ça a été créé en plus, je crois. C'est vraiment pour diversifier les choses, faire en sorte que beaucoup plus de clubs se sentent concernés par le truc.
On parlait de Haïfa tout à l'heure, qui est dans la poule du PSG et de la Juventus. C'est une équipe qui, d'abord, pour ce qu'elle est fait pour la Ligue des Champions, normalement, elle passe 3 tours préliminaires déjà. Donc, qui est certainement le champion de ce pays-là. Donc, à un moment donné, il faut se rendre compte que si tu passes pas ces tours préliminaires, tu as fait une super saison, mais à la fin, tu peux te retrouver aussi sans Coupe d'Europe. Pour eux, c'est une opportunité quand même géniale de pouvoir affronter des clubs européens, même d'un moindre calibre. Pour une équipe comme ça, jouer Southampton ou je ne sais quelle équipe anglaise, ça reste intéressant.
Je suis d'accord.
Très bien. En tout cas, il restera 2 journées. Alors, pas cette semaine, hein, parce que c'est une semaine assez calme, mais les 2 prochaines journées. C'est vrai qu'il va falloir quand même gérer la coupure Coupe du Monde pour les clubs ou les internationaux, qui n'aura pas d'internationaux. Ça, ça va être compliqué. On va jouer des matchs amicaux pendant ces périodes-là.
Il y a des matchs amicaux, il y a des stages prévus à l'étranger pour les clubs.
Compliqué de garder le rythme. Hein.
Compliqué de garder le rythme, mais en fait, pour certains, ça va être une nouvelle préparation. On prépare une autre saison, entre guillemets. Donc. C'est particulier, tout le monde a anticipé la chose bien sûr, mais n'ayant jamais vécu une saison de cette manière, on a beau anticiper, il peut y avoir plein de surprises.
Les Coupes d'Europe sont venues un peu plus tôt cette année, hein,
beaucoup d'enchaînements de matchs, donc beaucoup de blessures. Pour les petits effectifs, ça complique la chose. Ouais. Et puis malheureusement, on va voir, peut-être qu'il y aura aussi beaucoup de blessures pour la Coupe du Monde.
Ça commence déjà côté français. On a eu déjà Kanté qui n'y sera pas, Camara qui n'y sera pas, et puis...
Camara qui n'y aura pas été dans tous les cas.
Il y en aura peut-être d'autres qui vont arriver.
Ouais, je pense que Camara dans tous les cas.
Il y a déjà Pogba qu'on peut mettre de côté, en tout cas.
Pogba, c'est autre chose. Il est blessé, mais il y a aussi des problèmes extra-sportifs.
Mais sans sa blessure, je pense qu'il y aurait été.
Certainement.
Je pense qu'il va se remettre de sa blessure et je pense que Pogba.
Ça peut éviter des problèmes qu'il n'y soit pas, je pense.
Carrément, je suis d'accord avec elle. Je pense que Pogba peut y être.
Ouais,
il sera là pour le match contre Benfica.
Je pense qu'il va jouer. Hein, franchement.
Bah, on verra.
Voilà, Didier Deschamps, il voudra vraiment montrer qu'il n'y a pas de problème.
En plus, t'as Kanté qui n'est pas là, je pense que.
Non, il est obligé de le prendre.
S'il joue dès la semaine prochaine, effectivement, il a ses chances.
Je pense qu'il peut être là.
Parce que Deschamps compte sur lui. Mais si.
Comme Meyerdom, peut-être pour vivre.
Malheureusement, ça prend un peu plus de temps.
Pour être dans un groupe, peut-être.
Il a dit qu'il ne le prendrait pas pour être juste dans un groupe. Après, entre ce qu'il dit et la réalité, bon, il y a encore débat.
Parce qu'il y a des fois, on lui dit Benzema, il est blessé, il le sélectionne quand même. On dit Kylian Mbappé est blessé, il le prend quand même. Pour au final, après, le faire retourner.
Mais c'est des tauliers, c'est des tauliers.
Oui, mais donc, voilà. C'est pour ça qu'on dit que Pogba aussi reste un taulier de l'équipe de France.
Alors, actu sportif très dense, très chargé au niveau du foot. Hein, 11e journée, c'était hier le Classico PSG-Marseille. Victoire du Paris Saint-Germain 1-0. Pour une fois, on a vu un bon classico. Ça n'a pas toujours été le cas, messieurs. Hein.
Oui, voilà. Ça n'a pas toujours été le cas, mais
c'était sympa.
Voilà, mais ces dernières années, oui, c'est vrai que ça n'a pas toujours été le cas, mais oui, ça a été un bon match hier. Bon, il manquait un peu de buts quand même. Il manquait vraiment plus que les buts, mais
un bon gardien marseillais.
Voilà, Paul Lopez. Je cherchais son nom. Ouais. Paul Lopez a franchement sorti un très gros match hier pour éviter la raclée vraiment au Parc des Princes. Mais sinon, le reste, je pense que le PSG ont gagné et c'était mérité. Voilà quoi.
À bout, toi, en sortant de Roland-Garros, t'as pas vu déjà des gens arriver
Si, le métro, la ligne 10 était en plus, c'était juste à côté, du coup.
Bah oui.
Ouais, il y avait énormément de supporters parisiens. Et ouais, c'était un match assez équilibré entre les deux formations. Après, moi, j'ai entendu beaucoup à la fin du match des gens se plaindre de l'arbitrage, mais franchement, non, pas plus que ça. Non, je trouve que pour une fois, non, il a déjà fait des bons matchs, Chopin, mais là, je trouve qu'il a pas été si mauvais que ça. Même pas mauvais du tout. Il y a eu des faits de jeu qui auraient pu peut-être siffler, pénalty ou pas, mais ça s'est bien passé. Il y a ce rouge sur Gigot qui touche pas Neymar, qui fait un peu polémique, mais l'excès d'engagement quand même, je pense que c'est plutôt ça qui est sanctionné. Ça aurait fait jaune, ça m'aurait pas choqué. Rouge, ça me choque pas plus que ça. Non, ça a été un très bon match entre deux belles équipes.
Tu étais objectif à bout.
Je pense que Marseille.
J'ai cru que tu allais me dire que le rouge n'y est pas. Voilà.
Je suis journaliste, je sais être
objectif. Parce qu'il y a Daniel Mendy, le directeur du centre voilà, qui disait justement qu'il n'y avait pas rouge sur Gigot. Il dit qu'il n'y a pas rouge sur Gigot.
Ouais, parce qu'il le touche pas, mais l'excès d'engagement. Mais ouais, quand t'arrives comme ça, si Neymar il saute pas, il lui prend les tibias. Hein.
Voilà, et il joue pas la Coupe du Monde. Neymar ne joue pas la Coupe du Monde. Voilà, c'est l'intention.
Non, ouais, donc je pense que
c'est justifié.
Le rouge, il est justifié.
Après ça, tu le laisses dans le match. Juste après, il blesse un autre joueur.
Et il a pas changé grand chose, le rouge. On va pas se mentir, ça.
Oui, mais après, le PSG n'ont pas haussé le ton non plus. Vous avez vu, dès que vous avez le ballon, il jouait très calmement. Même les contre-attaques, il les jouait pas rapidement. Vous avez très bien vu. Ils étaient dans la gérance.
Comment vous avez trouvé ce
c'est un match qui convient à tout le monde, j'ai envie de dire. Hein.
Ouais.
Paris gagne, et c'est l'essentiel, on dira.
Actuellement, ouais.
Marseille ne fait pas un mauvais match, ouais. donc on va pas leur dire quoi que ce soit. Hein. De toute façon, ils ont fait ce qu'il fallait, ils ont essayé au maximum. Je pense que ça satisfait tout le monde et que le résultat est logique. Le résultat est logique, il n'y a pas grand-chose à en dire de plus pour moi.
Voilà, alors les autres principaux résultats de cette 11e journée, Lille qui est allé gagner à Strasbourg 3-0, Lens qui bat Montpellier 1-0, victoire de Toulouse devant Angers 3-2, Rennes, on en parlait, qui a battu Lyon donc 3-2, Nantes qui écrase Brest 4-1, Lorient-Reims 0-0 et Monaco-Clermont 1-1. Donc le PSG en tête 29 points, devant Lorient, c'est vraiment l'équipe de ce début de saison, 26 points. 3e Lens 24 points, 4e Marseille 23, 5e Rennes et Monaco 21. Et puis en bas de tableau, on voit que c'est très serré. Hein. Nantes 14e avec 10 points, 15e Reims Auxerre 9 points, 17e Strasbourg Ajaccio Angers 8 points et 20e Brest 6 points. Voilà. Votre équipe fétiche, Lyon, Laurent Blanc qui fait des débuts. Bon, bah, Lyon battu à Rennes.
Début intéressant. Il y a du bon à prendre dedans. Bon, 3 buts encaissés, comme il le dit, hein, c'est rédhibitoire. Hein, pour gagner un match, c'est compliqué. La défense, toujours catastrophique à Lyon. En même temps, Boateng est sorti du placard. Il n'avait pas joué un match de la saison. Da Silva qui rentre sur une phase défensive et qui, malheureusement, ça enchaîne avec un but. Bon, il y a de la difficulté en défense, mais on le savait. Offensivement, il a changé beaucoup de choses, puisque d'habitude, c'est Tété et Karl Toko Ekambi qui sont titulaires. Ils sont rentrés qu'à 5 minutes de la fin, donc on voit qu'il a essayé autre chose.
Toko Ekambi, hein, il est d'ici, hein, tout près, hein, des gobelins. Ouais.
Mais, moi, je l'aime beaucoup, Toko Ekambi, mais c'est vrai qu'il n'est pas en réussite sur ce début de saison, contrairement à Tété, qui a fait plutôt des bons matchs. Mais il a tenté l'association Dembélé-Lacazette qui était réclamée par les joueurs eux-mêmes. Donc, plutôt intéressant. Aouar qui est sorti aussi du placard, hein, qui n'a pas joué non plus depuis le début de saison. Donc, il y a beaucoup de changements. Donc, c'est assez compliqué. On ne va pas juger après un match. Rennes a fait son match. Rennes a fait un match cohérent. Quand ils attaquent, ils sont vraiment incisifs, ils sont vraiment bons.
Avec beaucoup d'anciens Lyonnais, en plus.
Qui ont marqué.
Ce qui fait un peu mal au cœur, c'est Guiri et
l'entraîneur Genesio.
Genesio, qui était très décrié à Lyon, malheureusement. Ouais. Genesio, c'est un cas particulier, parce que il était décrié, il y a des raisons pour lesquelles il l'était. Bon, il y en a qui ne sont pas objectifs, et il y en a d'autres qui le sont. Dans ce qui est objectif, j'ai envie de dire que on attendait Lyon à chaque année concurrencer le PSG ou au moins être juste derrière, ce qui n'était pas le cas et généralement ça finissait 3 ou 4. C'était pas mal, mais on savait en fait, en licenciant Genesio, on savait ce qu'on perdait mais pas ce qu'on pourrait avoir derrière. Et malheureusement, ça n'a pas été
Blanc, c'est
derrière.
Quelqu'un qui va avoir les coups des franches. Donc il n'y a plus d'environnement, il n'y a plus de Gérard Rouillet, malheureusement. Il n'y a plus tout l'environnement qu'il y avait, Bernard Lacombe et consorts, hein, sont tous partis. Donc il a les coups des franches. Hein, parce que Blanc, c'est quelqu'un qui veut être vraiment libre.
Mais c'est peut-être ça qui avait gêné aussi au départ. Hein,
bien sûr. Il y a 3 ans.
Entre autres choses, même s'il justifie ça par le fait que Juninho a fait le choix.
Ouais.
Juninho n'a pas fait le choix seul. Hein, donc à un moment donné, C'est aussi voir comment Blanc peut être associé à la direction à Lyon, puisqu'il y a Vincent Ponceau qui a du poids aujourd'hui, même côté football, alors que c'est ça qui pose problème pour beaucoup de supporters. C'est que c'est un mec dans la finance qui est très compétent, qui est vraiment très bon dans ce qu'il fait, mais dès qu'il s'est mis côté football, alors que lui-même, il y a 5 ans, disait qu'il ne connaissait rien au foot...
C'est l'éternel problème. Hein.
Ça pose un certain problème.
Il y a beaucoup de clubs comme ça, hein. C'est l'éternel problème. Hein.
Et Lyon, malheureusement, niveau club, gère pas forcément bien les choses. Au niveau du recrutement, notamment, ils ont une équipe
un peu amateur, on va dire, puisqu'il
n'y a pas assez de personnel pour s'occuper du recrutement. Donc, bon, il y a des très bonnes personnes à Lyon aussi, hein, puisque malgré tout, il y a des achats qui sont faits, et puis surtout au niveau des jeunes, qui sont très bien faits, mais bon, ça demande encore à quelques modifications. Quoi.
Allez, on parle de la Ligue 2, c'était la 12e journée. Là, on a une bonne nouvelle, hein, le président Ferracci, puisque son équipe donc, s'est imposée 2-0 à Saint-Etienne, victoire de Nîmes devant Amiens 2-0, Metz-Sochaux 0-0. Ce soir, on a Bastia-Bordeaux, c'était un match de Ligue 1 il y a quelques années. Hein. Donc à 20h45, pour l'instant, c'est Le Havre, Sochaux, et Bordeaux et Amiens qui sont en tête avec 23 points. 5e Valenciennes, 22. voyez, donc c'est très très serré. Le Paris FC est en milieu de tableau, donc 9e avec Bastia 16 points. Et puis en bas, donc 18e Nîmes 11 points et 19e Saint-Etienne et Niort 8 points.
Ouais, moi je vous le disais déjà la semaine dernière, je m'inquiète pour Saint-Etienne. Quand je l'ai dit, il y avait des gens sceptiques, mais moi je m'inquiète pour Saint-Etienne. Quand semaine après semaine, tu n'arrives pas à gagner un match de football, à la fin de la saison, ça finit souvent en descente. Il ne faut pas oublier que cette saison, il y a 4 descentes en Ligue 2. Je m'inquiète pour le club stéphanois. C'est très très mal géré par les deux présidents. Ils auraient dû vendre ce club depuis tellement longtemps, mais tellement longtemps. Là, ils espéraient remonter directement, faire l'ascenseur pour vendre le club. Bah, j'ai bien peur que ça finisse en national, tout ça.
Ouais. Bon, je vais pas en parler à notre ami lyonnais, hein, Saint-Étienne-Lyon.
Bon, écoutez, vu leur situation, on peut en parler. Hein. Non, mais c'est un peu malheureux, parce que ça reste un club historique. Ouais, et à Lyon, on aime les derbys, donc ne pas en avoir pendant un certain temps.
Ouais. Non, je pense qu'on en aura bientôt là. En tout cas, si Lyon continue comme ça, je pense qu'on en aura bientôt en Ligue 2 des derbys.
C'est pas encore à ce niveau-là, mais malheureusement pour Saint-Etienne, effectivement, la direction pose problème. Est-ce qu'il y avait des racheteurs aussi, hein ? Faut se poser la question dans tous les sens. Parce qu'on peut dire qu'ils auraient dû vendre, mais est-ce qu'au moment de vendre, regardez ce qui se passe à Lyon aujourd'hui. Ils sont censés être pris. Aujourd'hui, ça traîne. Ouais. Ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas. Mais en attendant, quand ça traîne, ce n'est pas bon signe en général. Oui. Donc,
Alors, Abou, on va parler maintenant du national, hein, puisque le Paris Atlético s'est quand même donc qualifié en Coupe de France. Hein. Ils sont allés gagner à Saint-Maur 2-0. Ils avaient déjà gagné au tour précédent à Mende 2-0. Mais par contre, le Paris Atlético a partagé les points donc mercredi, un partout. Hein, t'étais au match, c'était contre l'équipe du Puy. Et pour l'instant, le Paris Atlético, 16e avec 7 points, c'est-à-dire à 2 points à 2 places du dernier, quoi.
C'est ça. Déjà, félicitations à eux. Qualification historique en Coupe de France. Hein, c'est la première fois de leur histoire.
Alors que Versailles est éliminé. Ils ont fait 1-1 contre le Red Star et ils ont été battus 5-4.
Donc, félicitations déjà à eux. C'est la première fois de leur histoire qu'ils arrivent au 7e tour. C'est une très, très belle chose pour eux. Et par contre, en championnat, moi, j'étais au match.
T'as commenté le match sur Twitter.
C'est ça. C'est un match très compliqué. Hein. Offensivement, je suis désolé, mais c'est bis repetita depuis le début de la saison. Tous les matchs que j'ai couverts du Paris 13 Atlético à domicile, offensivement, c'est insipide. Offensivement, c'est pas possible, en fait. Avec une équipe comme ça, offensivement, cette équipe ne se maintiendra pas. Donc, il y a eu Jean-Guy Wallem qui a été licencié.
Qui a été mis à pied
jeudi et qui a été licencié ce matin.
On connaît l'entraîneur, non ? Pas encore ?
Pas encore, mais on sait que Namori Keita a pris la relève
temporairement.
Et c'est lui qui a qualifié d'ailleurs le club. Mais c'est vrai qu'offensivement, c'est très très compliqué. Il y a ce match contre le Puy Foot 43, ouverture. Il y a un premier coup franc. Ce coup franc-là, ils vont faire une main dessus. Deuxième coup franc à l'entrée de la surface de réparation. Il y a Ben Fredge qui met un coup franc exceptionnel dans la lucarne directe. Puis il y a le Paris 13 Atlético qui court derrière le score sans vraiment être tranchant offensivement, encore une fois. Jusqu'au carton rouge. Pour le Puy Foot, un carton rouge pour le Puy Foot. Et à la 80e minute, il y a les joueurs du Paris 13 Atlético qui égalisent et qui reviennent à 1-1. Et même là, quoi, sur le but de l'égalisation, ils prennent un carton rouge. C'est dire la difficulté qu'ils ont eu dans ce match-là. Sur le but de l'égalisation, tu prends un carton rouge. Sur le but égalisateur, tu prends un carton rouge.
Comment ça, tu prends un carton rouge ?
Ils ont pris un carton rouge sur le but égalisateur. Il y a un joueur qui est rentré dans le. Il y a eu le but et il y a un joueur qui est rentré dans le gardien juste après.
Et ils prennent un rouge là-dessus.
Ouais, ils prennent un rouge là-dessus. Et du coup, ils finissent le.
Et le but, il est accepté ?
Non, le but, il est accepté parce que genre, il marque le but et c'est après que le joueur s'empale sur le gardien. Mmh. Ouais, il rentre. Sur le gardien.
Il marque et il
s'empale. Non, il y a eu le but.
Oui.
Et après, il y a un autre joueur qui est venu s'empaler sur le gardien.
Ah, ok.
C'est pas les mêmes joueurs. Celui qui a marqué.
Oui, même c'est pas les mêmes joueurs, c'est dans la même action.
Non, parce que le but, il était rentré déjà. Le but, il est validé.
Partir du moment où le but est validé, normalement, le jeu est stoppé. Quand je dis que le jeu est stoppé. En fait, quand il y a but, on remet la balle au centre et je ne sais pas. Mais dans l'action,
il peut se passer des choses.
Et l'arbitre, il a le droit de sortir le
rouge. En fait, tant que le match n'est pas fini, l'arbitre peut sortir le rouge, que le jeu soit arrêté ou pas.
Je ne comprends pas qu'il y a une faute qui soit sifflée à ce moment-là et il y a un rouge qui soit sorti.
Ils ont dû sentir que la personne avait fait exprès, peut-être.
De rentrer dans le gardien. Donc, ça fait carton rouge et ils finissent le match à 10 contre 10.
En tout cas, pour l'instant, une seule victoire pour l'Atlético. Ils sont à 2 places de la dernière place.
C'est très.
Ça devient
compliqué.
Difficile. C'est Concarneau et Dunkerque qui sont en tête avec 18 points, devant Versailles qui est 3e avec Châteauroux, 15 points. Et puis 6e, donc Cholet, Red Star et Avenches, 13 points.
Voilà. C'est ça. Cholet, d'ailleurs, big up à Cholet. J'aime beaucoup cette ville. J'y vais très souvent. C'est très bizarre d'aller à Cholet, dit comme ça. Mais voilà, j'aime beaucoup cette ville et j'y vais très souvent. Donc...
c'est une ville de basket en plus. Hein.
Ouais, c'est vrai.
Et d'ailleurs, dans cette journée, Versailles a battu Le Mans 2-1. Et puis le Red Star, par contre, avait été battu par Bourg-en-Brest 1-0. Voilà.
C'est ça, le Red Star d'Habib Bey. Ben, voilà. En tout cas, on souhaite aux hommes d'Habib Bey de monter cette saison. Puisque moi, Habib Bey, c'est vraiment un coach que j'ai envie de voir à un niveau plus haut, tant ses analyses tactiques sont pertinentes. Après, à voir sur le terrain ce que ça va donner.
Oui, et puis n'oubliez pas que c'est la seule victoire de l'Atlético, justement, au Red Star, là-bas.
Oui, c'est leur seule victoire, c'est contre le Red Star. Ouais. Et ils n'ont toujours pas gagné dans leur stade, leur maison, Boutroux.
Bon, le Paris Foot Atlético, vous suivez le National, ça vous plaît? Naturellement, en tant qu'agent de joueur.
On le suit, mais pas... Bah oui. On va dire que le classement m'intéresse peu.
Troisième club français, que... quand même, après le PSG et le PFC.
Sur les clubs franciliens, il y a, beaucoup d'équipes qui aimeraient... chaque année monter, pouvoir progresser, avoir des investisseurs qui permettent d'avoir un second club en région parisienne assez fort. On suit les championnats nationaux, bien sûr. Après, on va cibler en fonction des joueurs avec lesquels on travaille.
Mais on va en parler.
Donc, on suit de loin, on va dire, le classement, mais on s'attache à certains clubs en particulier.
Voilà, alors le foot féminin, ça vous plaît aussi, cinquième journée. Hein, on a des clubs quand même parisiens. Le Paris FC et Reims 2-2. Le Paris Saint-Germain qui bat Dijon 3-1. Et puis la victoire de Lyon à Bordeaux 3-1. Donc, c'est Lyon qui est en tête avec 15 points devant le PSG 13 points et le Paris FC donc 11 points. Le foot féminin, ça vous intéresse aussi?
Ça m'intéresse, mais pareil,
même c'est
on va dire que c'est le côté joueuse avec qui on travaille. C'est toujours pareil, dans le sens où
ça commence,
moi j'ai commencé un peu avec les féminines, en se rapprochant de joueuses du PSG, notamment une internationale chinoise qui était arrivée il y a 3 ans de ça. Mm-hmm. Et c'est un peu comme ça que je me suis intéressé au foot féminin. Sinon, avant, effectivement, pas forcément un intérêt énorme.
On en parle
énorme.
Un peu plus maintenant, comment ça.
On en parle, ça se développe, et c'est surtout que depuis 2-3 ans, les gros clubs ont investi sur les féminines, et on voit un gros changement. Avant, il y avait quelques clubs allemands et français qui disputaient la Coupe d'Europe. Aujourd'hui, il y a le Barça, il y a le Manchester City, il y a le Real, il y a l'Atlético Madrid, il y a le PSG. Il y a énormément de clubs aujourd'hui. Et je pense que Lyon n'aura plus cette hégémonie qu'elle a eue pendant les 15 dernières années.
Allez, avant de pour finir ce retour sur cette semaine de foot et avant de parler du Ballon d'Or et du métier d'agent de joueur, il y avait quand même de gros chocs à l'étranger. Le Real qui bat Barcelone 3-1 en Espagne et puis Liverpool qui a battu Manchester City 1-0 en Angleterre. Abou et El Hadji.
Franchement, Philippe, moi j'ai passé un dimanche merveilleux.
Ah bah oui,
en
j'imagine.
Tant que supporter du Real
et supporter de Liverpool
et supporter du PSG, je me suis régalé. Régalé, franchement, voilà. Parce que déjà, tout le monde, on va commencer par le Classico. Depuis le temps, on disait Barcelone est en déroute. On l'a vu, ils ont fait match nul contre l'Inter, dernier match, avec Lewandowski qui les a sauvés. Mais même ça, on sait. Donc maintenant, Lewandowski, on comprend pas trop. Il est parti au Barcelone pour jouer la Ligue Europa, parce que finalement, c'est ce qu'il va jouer. Et dernièrement, Xavi et il y avait Laporta qui disait que l'objectif était la Liga. Voilà, c'est ce qu'il disait. L'objectif était la Liga. Bon, maintenant, ils ont joué contre le Real de Madrid. Ils étaient assez prétentieux avant le match. Ils ont joué contre le Real de Madrid. On leur a remis les pendules à l'heure. Voilà, avec un match maîtrisé du début jusqu'à la fin. Un pénalty non sifflé pour le Barcelone. J'y vais. Parce que c'est vrai. Sur Lewandowski, il y avait un penalty qui n'a pas été sifflé, mais je pense que ça n'aurait pas changé le match. Et je pense que dans tous les cas, le Real Madrid l'aura emporté.
Pense que la question de maintenir Xavi au FC Barcelone devrait se poser.
Mais depuis un moment.
Il y a un moment donné, deux saisons d'affilée, tu finis en Ligue Europa.
Excuse-moi.
En Ligue Europa, quand tu es éliminé contre Francfort, il y a un moment donné, tout Xavi que tu t'appelles, Ronald Koeman, on l'a licencié pour moins que ça. Pour moins que ça.
Donc, je suis pas complètement d'accord sur.
Sais, parce qu'on va dire que c'est Xavi.
Non.
C'est l'enfant du.
Mais moi, tout simplement, il y a Koeman qui est arrivé en pompier de service. Il savait très bien qu'il allait pas rester très longtemps. Xavi, on essaie de construire quelque chose avec lui sur du long terme. Et c'est pour ça qu'on lui laisse aussi plus l'opportunité. Et c'est pour ça qu'on a accédé à ces demandes de transfert, parfois extravagantes, parce que pour moi, ils n'étaient pas obligés de dépenser autant cet été, en sachant que cette année, s'ils visent la Liga, c'est parce qu'ils savent très bien qu'ils ont un déficit en Ligue des Champions, déjà d'expérience, de vécu.
Non, là maintenant. Mais sinon, ils disaient qu'ils sont aptes, en tout cas depuis le début de saison, ils disaient nous avons une équipe où nous sommes aptes à gagner la Ligue des Champions, où nous sommes un concurrent sérieux. C'est ce qu'ils prétendaient.
C'est ce que le Barça est obligé de dire médiatiquement.
Voilà,
la réalité, c'est qu'ils avaient très bien conscience qu'ils n'avaient pas le niveau pour gagner la Ligue des Champions dès cette année. Ils construisent pour la gagner maintenant, aujourd'hui, objectivement. À part concours de circonstances favorables, qui peut se dire au début de la saison, le Barça va gagner la Ligue des Champions? Pourquoi? Parce que Dembélé fait quelques belles choses? Non, à un moment donné, c'est pas suffisant.
Avec le recrutement de Lewandowski, qu'on entend quand même l'un des ou le meilleur neuf au monde
l'un
actuellement.
Des meilleurs neuf au monde.
Oui,
derrière Karim Benzema.
Oui, mais oui, c'est pour ça que je dis l'un ou le, parce qu'il y en a, ils disent le.
Il y a une
et
superbe attaque, mais regardons le milieu de terrain. C'est trop jeune pour pouvoir prétendre à gagner la Ligue des Champions.
Moi, je pense, il est trop vieux.
Non, moi, je pense que le problème du milieu de terrain, c'est Xavi. Il y a un moment donné, Sergio Busquets, il ne peut plus être titulaire dans une équipe comme le FC Barcelone. Pareil pour Gérard Piqué.
Il y a Kessié, vous recrutez Kessié, pourquoi ?
En 2022, il y a des joueurs comme ça qui n'ont pas le droit d'être titulaires au FC Barcelone. Et vous parliez de la Ligue des Champions. Je crois que dans leur budget prévisionnel, ils avaient prévu d'aller en quart de finale de la Ligue des Champions.
Au minimum ! Mais avec l'équipe qu'ils ont,
franchement, entre viser les quarts et viser la victoire finale, il y a une différence.
C'est vrai qu'il y a une différence.
Et au-delà de ça, le groupe du Barça n'est pas le plus évident. Il tombe sur un groupe comme celui de l'OM.
Bien sûr, mais excuse-moi, mais aujourd'hui.
La question ne se pose pas de la même manière.
Voilà, d'accord, mais excuse-moi, mais aujourd'hui, avec l'équipe du Barcelone qu'on a, franchement, en plus avec une Inter qui n'était pas forcément très bon dernièrement, franchement, le Barça, normalement, il bat l'Inter.
Normalement,
au Camp Nou, ils les battent. Franchement, là.
Mais ils n'ont pas fait que de mauvaises choses. Hein. Le match aller contre le Bayern était très intéressant de leur part. Ils ne doivent pas repartir avec un 2-0. Très honnêtement, ils font un super match.
Bien sûr, ils font un super match. Bien
maintenant...
sûr. Mais après, il y a la réalité qui les rattrape. Maintenant, moi, je voulais aussi une petite stat que j'avais. Les 50 premiers matchs de Xavi, c'est 28 victoires, 11 matchs nuls et 11 défaites. 94 buts inscrits et 51 encaissés. Maintenant, les 50 premiers matchs de Koeman, c'est 33 victoires, soit 5 de plus. 7 nuls, voilà, 7 nuls, et comparé à Xavi, c'est 11. 10 défaites que Koeman a eues, il en a eu 11. Xavi, avec une équipe beaucoup plus, parce qu'il faut savoir, Koeman, quand il est arrivé, tout le monde était blessé et il s'est retrouvé avec des Braithwaite en pointe. Voilà, il y avait Braithwaite, maintenant, tu compares Braithwaite à Lewandowski, il n'y a pas photo. Voilà, maintenant, t'as des retours de blessures. Les Pedri, Ansu Fati, ils étaient tous blessés. Il est arrivé, Koeman, à un moment critique. Il a fait des choses super bien. Et franchement, comment on l'a remercié, là, Xavi, comment on voit Xavi, en tout cas, pour moi, il doit autant dégager que Koeman. Je comprends pas où est-ce qu'il fait des meilleurs résultats que Koeman avec une meilleure équipe. Je ne comprends pas.
Il fait pas de meilleurs résultats.
Il en fait pas avec une meilleure équipe.
Il construit, il veut reconstruire un jeu à la barcelonaise. Et malheureusement, ça peut prendre du temps. Et il aura ce crédit, il aura ce temps-là. Contrairement à Koeman qu'on a mis en place en disant « De toute façon, tu ne vas pas rester très longtemps. Tu vas nous faire une saison et on va voir ce que ça donne. Si tu cartonnes, peut-être que tu continueras. » Mais la réalité, c'est qu'il ne le voulait pas. C'est le pompier de service, Koeman.
Voilà, en tout cas, c'est ça.
Pompier de service qui fait des meilleurs stats que celui sur qui il compte sur la longue.
Oui, c'est ça notre émission, hein, débat passionné, c'est bien le foot. Donc on écoute une petite pause musicale, Stromae donc pour Invaincu. On retrouvera ensuite notre ami Stéphane. On parlera du Ballon d'Or et puis ensuite on parlera du métier donc d'agent de joueur. Allez tout de suite, Stromae, Invaincu.
De victoire que de défaite. Ouh, t'en as remporté plus d'un. Tu crois que tu vas me la mettre? Même pas en rêve. Espèce de petite putain. Trois balles en pleine tête. Une pour ma grand-mère, mon grand-père et une pour mon cousin. T'as pas gagné la guerre, juste une barrette. Petit fantassin. Ouh. Gauche, droite, droite, gauche. Front kick, balayette, des pénaltys. Pour un mois, trois mois, un an, cinq ans, dix ans, vingt ans, trente ans. Sans toi c'est déjà ça de prix. Ouais j'ai payé le prix. Et j'ai du mal à l'écrire. Et du mal à le dire, mais m'affaiblit. Debout, jusqu'au dernier cri. Ouh, putain de maladie. Hey, oh yeah. Tant que je suis en vie, je suis invaincu. Hey, oh yeah. Hey, oh yeah. Toujours invaincu. Hey,
Fan. Allez, comme promis, hein, pour donc clore cette première partie consacrée à l'actu du foot de la semaine, on va donc écouter la rubrique coup de cœur, coup de gueule de notre ami du quotidien du sport, Stéphane Desenclos.
On s'était quitté la veille d'une semaine européenne, on peut dire que ça a été un nouveau fiasco pour les clubs français. Même s'il faut souligner la belle performance de l'OM, l'OM à ce niveau-là, je parle du niveau de Lisbonne, mais aussi du Parc hier, ça fait plaisir à voir. Paradoxalement, au moment où les Phocéens sont dignes en Ligue des Champions, ça se gâte en Ligue 1. Battu par Ajaccio à domicile, puis à Paris hier, les Olympiens ont fait une sorte de grand écart de la défaite en perdant deux fois de suite. Du coup, ils ne sont plus que quatrième aujourd'hui et voient arriver Lens avec angoisse dimanche. Pas à l'abri face à cette équipe redoutable à l'extérieur, l'OM pourrait se retrouver cinquième et peut-être même sixième au soir de la 12e journée. Je le répète, c'est paradoxal car cet OM-là, il est vraiment pas mal. Tiens au passage un petit coucou à Pascal Olmeta et Eric Dimeco qui se sont acharnés sur Paul Lopez pour défendre leur pote Mandanda la saison dernière. Je ne doute pas qu'ils ont regardé le Classico hier. Le Classico, justement, il y a une chose qui ne change pas, c'est qu'avant même le début du match, on sait déjà que tout sera la faute de l'arbitre. C'est fatigant, surtout qu'en y regardant de plus près, Clément Turpin n'a pas grand-chose à se reprocher. Mais le plus important, le plus intéressant encore, est venu après le match, quand Kylian Mbappé a expliqué aux journalistes qu'il n'avait jamais demandé à partir en janvier. Après le démenti de Luis Campos, dès le jour du match contre Benfica, cette déclaration met fin à la polémique. Eh bien non, car il y a toujours des journalistes, notamment sur une certaine chaîne qui diffuse la cérémonie du Ballon d'Or, qui pensent que Campos et Mbappé mentent, vous savez, les mêmes journalistes que ceux qui pensaient que Zidane allait être le futur entraîneur du PSG et qu'il a planté le club au dernier moment, quoi qu'en dise la direction du PSG et Christophe Galtier lui-même. Allez, tranche de rigolade, je vais regarder la cérémonie du Ballon d'Or. Au fait, vous voulez mon podium ? Benzema, Lewandowski et Mané.
Voilà, effectivement, bah, écoutez, ça résume bien ce qu'a dit donc Stéphane et ce qu'on a dit au cours de cette première partie d'émission, hein, une actualité particulièrement dense. Donc effectivement, ce soir, c'est le Ballon d'Or, Benzema, donc qui va être logiquement récompensé. Donc ça sera Benzema, eh bien, le cinquième Français a gagné le Ballon d'Or, puisque Coppa l'a eu en 58, Platini l'a eu trois fois en 83, 84, 85, Papin l'a eu en 91 et Zidane l'a eu en 98, même si c'est vrai que Thierry Henry en 2003 et puis Ribéry en 2013, hein, d'ailleurs ce qui nous permet d'avoir une pensée pour Ribéry, qui vient de mettre un terme à sa carrière, aurait mérité cette année-là de l'avoir. Benzema, ça paraît être un choix tout à fait logique, messieurs.
Ouais, moi pour tout vous dire, Philippe, j'ai pas, enfin, je regarde le foot depuis petit, mais j'ai pas de joueur idolâtre. J'ai pas de joueur que j'aime plus que ça. J'aime un peu tous les joueurs, mais j'ai pas de poster de joueur dans ma chambre ou quoi. Et s'il y a un joueur au monde, on me demande de partir en vacances avec, je vous répondrai Karim Benzema. Mais vraiment depuis tout petit.
Et tu finis dans son lit aussi.
C'est vraiment un des rares. C'est vraiment un des rares joueurs que j'apprécie dans le monde du football. Et moi, pour être même encore plus honnête que vous et aller plus profondément dans la chose. Tu parlais d'être dans son lit, peut-être pas jusque-là, mais quand Benzema n'était plus en équipe de France, je ne regardais plus les matchs de l'équipe de France.
Ah, c'est quelque... bien, t'es journaliste.
Moi, c'est quelque chose qui m'avait affecté. Ouais, ouais. Et voir aujourd'hui que ce joueur-là, 5 ans après son interview dans le Cannes Football Club, où il dit « Mon rêve, c'est d'avoir le Ballon d'Or, mais il y a deux monstres devant moi », voir que 5 ans après, ce joueur-là arrive à réaliser son rêve, ce jeune des quartiers, ce jeune enfant d'immigré, ce jeune qui a réussi par lui-même, ce jeune qui est parti conquérir l'Europe et qui est devenu... en quelque sorte roi d'Espagne, le voir conquérir, vraiment être sur le toit du monde, sur le toit de l'Europe, et le voir là où tous les footballeurs rêvent d'être un jour, c'est vraiment une immense fierté. En tant que Français déjà, en tant que jeune, en tant que fils d'immigré, tout ça font qu'on est très très fiers de Karim Benzema, et surtout le parcours qu'il a eu et tout ce qu'il a traversé. Donc on est vraiment très très heureux de le voir à ce niveau-là. Et comme vous le disiez, grosse pensée à Franck Ribéry, qui l'aurait mérité aussi en 2013, et qui aurait été aussi une très grosse fierté pour nous.
En 2003, l'ancien Lyonnais que vous êtes doit être content. C'est vrai qu'il a atteint depuis quelques années une dimension, Karim Benzema.
Benzema, on l'a vu venir très tôt, hein, très jeune, avec Ben Arfa. Les deux, les deux étaient vraiment...
Génération 87.
Il y en a un qui s'est garé.
Alors, il y en a un qui s'est garé, mais j'ai envie de dire que ça a certainement bénéficié à Benzema aussi. Ouais. C'est parce que Ben Arfa, à 12 ans, était beaucoup plus médiatisé. Et c'était un des premiers joueurs à cet âge-là à être aussi médiatisé. Donc, très difficile à gérer, hein, pour l'entourage, pour lui-même, hein, tout simplement. Et Benzema, au-delà du footballeur qu'il est, il savait déjà depuis petit où il voulait aller. Ce qu'il avait envie de faire, c'était Lyon, gagner le championnat et ensuite aller au Real Madrid. Il a fait du tout droit et ce qui est un peu un peu plus impressionnant encore, c'est que il n'y a même pas de débat cette année. Il a mis tout le monde d'accord, et c'est rare les années où on est tous d'accord sur le Ballon d'Or.
Et c'est le seul survivant de cette génération 87. Benzema, Nasri, Menez, Ben Arfa, le seul survivant de cette génération 87, ça reste quand même lui.
Après, il faut remettre les choses aussi dans leur contexte. Les jeunes joueurs à 17 ans, les meilleurs à 18 ans, à 19 ans, ne sont pas nécessairement les meilleurs plus tard. Donc effectivement, ils étaient tous très forts et je trouve malgré tout que Nasri et Menez ont fait des très
même
belles carrières.
Même Ben Arfa.
Même Ben Arfa,
ils n'ont pas eu la carrière qu'ils auraient dû avoir.
Ben Arfa, c'est le cas le plus particulier parce que je pense honnêtement qu'il aurait dû jouer au Barça ou au Real dans sa carrière. Ce joueur-là a le talent pour. Benzema l'a dit lui-même, il a dit « c'est le seul joueur que je mettrais quasiment au niveau de Messi ». Donc c'est dire aussi la considération qu'il a pour ce joueur. Et d'autres joueurs, 20 ans après avoir côtoyé Ben Arfa, il y a encore beaucoup de joueurs qui disent « c'est le joueur le plus fort que j'ai vu jouer ».
Oui, mais il y en a des tas comme ça.
Voilà. Mais Benzema c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé, c'est quelqu'un qui a une superbe image à Lyon. Parce qu'il n'a jamais fait de problème, etc. Les problématiques qui sont venues, c'est plutôt de son entourage, pas de lui-même. Et c'est un joueur qui, aujourd'hui, montre toute l'étendue de son talent. Il l'avait déjà fait auparavant, mais c'est vrai qu'il était un peu dans l'ombre. Aujourd'hui, il a la gloire qu'il mérite.
Alors, cérémonie à partir de 20h30, qu'on pourra suivre chez nos amis d'équipe une fois cette émission terminée. Elle a dit, c'est logique, la victoire de Benzema. C'est 5e Français à gagner le Ballon d'Or.
C'est logique, franchement, c'est amplement mérité. Moi-même, en tant que supporter du Real Madrid juste en tant que consultant, déjà en regardant juste ses performances, il n'y a rien à dire. Franchement, il n'y a rien à dire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui même, il a eu, je crois, le maximum de votes. Bah, enfin, en tout cas, il n'y a jamais eu de l'unanimité comme certaines années. Ça a vraiment été à l'unanimité. Il
n'y
a jamais eu autant de votes.
Même Henry, en 2003.
Il n'y a jamais eu autant de votes pour un vainqueur. Là. Voilà.
Et dire à quel point ce joueur fédère autour de lui. Ce soir, on aura Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé à la cérémonie du Ballon d'Or. Trois joueurs qui sont sûrs de ne pas l'avoir.
Messi, il est là.
Ouais. Alors que les années précédentes, ces joueurs ne venaient pas quand ils n'étaient pas sûrs de l'avoir. Ronaldo, l'année dernière, il n'était pas là. Il y a une année où Messi aussi n'était pas là. Mbappé, il y avait des doutes sur le fait qu'il soit présent ou pas aujourd'hui. En plus, on annonce qu'Mbappé ne sera pas dans le top 5.
Dans le top 5.
Mais tous ces joueurs seront là pour voir le sacre de Karim Benzema.
Pour toi, il n'est pas dans le top 5. Pour toi, Kylian Mbappé, tu ne le mets pas dans le top 5.
Ils ont mis qui devant lui?
Ils ont mis Lewandowski, Mané, Benzema.
Vinicius,
il n'y a pas Courtois dans.
Non,
dans
les c'est honteux. Ouais. Les gardiens de but, de toute façon, on ne les respecte plus.
Oui, malheureusement. Bah, c'est tout
on
le
lui
débat
a donné, en fait, on lui a donné l'Yachine, on lui a dit voilà.
Oui, mais c'est tout le débat du Ballon d'Or. C'est qu'à un moment donné, ça ne récompense pas forcément un certain nombre de postes. Un défenseur central, un milieu défensif.
Il y a un
défensif,
Ballon d'Or pour les gardiens maintenant, quand même. Hein.
Oui, ouais, mais finalement, on dit aux gardiens tu ne peux pas être le meilleur joueur du monde. Et ça reste problématique.
Comme Manuel Neuer aussi.
C'est ce qui pousse aussi tous les jeunes à être individualistes. C'est bien se sûr. Dire, c'est à moi de me mettre en avant, sinon personne ne le fera et j'aurai jamais les récompenses.
Et ben voilà, donc on reviendra en détail la semaine prochaine sur ce classement.
Et un petit truc sur le Golden Boy. Oui. Franchement, c'est du vol. On l'a donné à Gavi. Franchement, c'est du vol. Jude Bellingham, il passe avant. Kamavinga, même s'il n'est pas titulaire à tous les matchs, on le met avant aussi. Et Moussiala, je le mets devant. Voilà, c'est le plus gros vol aujourd'hui. Voilà.
Très bien. Eh ben, on part en détail la semaine prochaine. Vous voyez donc émission très très animée. Comme notre ami donc du futsal n'est pas là. Eh bien, on a pu largement disséquer l'actu foot. Alors, comment on en arrive à devenir agent joueur maintenant, Julien?
On reste finalement dans la passion, la passion qu'on a depuis petit. Je pense que pour beaucoup, on cherche un moyen finalement de travailler dans le foot. On cherche un peu toutes les portes qui existent. Moi, c'est un peu un concours de circonstances. Ma compagne m'a poussé à ça parce que je voulais bosser
dans le foot comme nous.
C'est elle qui a fait les recherches pour savoir par quel diplôme passer, etc. Parce que c'est vrai que c'est méconnu. On ne sait pas comment y arriver à ce poste d'agent.
Ouais. Alors c'est dommage. On aurait aimé avoir le directeur de la première école. Bon, lui aussi, c'est bizarrement décommandé, mais enfin, c'est pas très grave. Savoir comment on acquiert ces formations, parce qu'il faut déjà rentrer dans une école. C'est indispensable. Qui forme, je veux dire, à la préparation du métier.
Alors indispensable, je dis non parce que en fait le diplôme ne dépend d'aucune école, c'est-à-dire que n'importe qui peut s'inscrire au diplôme. On n'est pas obligé de passer par une école. Alors effectivement, il faut un bagage. Le bagage, ça va être.
Et si on peut l'acquérir tout seul?
On peut l'acquérir tout seul, selon les études qu'on a faites, selon la motivation qu'on a. Il y en a qui sortent de nulle part, mais qui étudient énormément un domaine et qui arrivent. Donc, c'est plus compliqué, évidemment, mais c'est faisable. Il n'y a pas d'obligation, en tout cas, de passer par une école.
Et qu'est-ce qu'on demande dans les examens? On demande du juridique.
Alors la première partie, ouais, c'est une partie générale, donc ouais, tout sport confondu. Ouais. Donc c'est vraiment que du droit. Droit des assurances, droit fiscal, droit du travail, droit du sport. Donc en fait, c'est un diplôme où on va avoir un QCM qui va être sur 12 ou 8 points, ça dépend de l'année, et des cas pratiques à résoudre. Donc on va nous donner, voilà, tel joueur est dans telle situation, comment on peut résoudre ce cas. Et donc ça va être ça la base de l'examen. Donc il faut avoir plus de 10 à l'examen. Et d'accord, ensuite, il y a la partie spécifique, donc liée au football. On peut choisir chacun son sport. 95% des gens vont vers le football, d'accord, très honnêtement.
Donc, ça veut dire qu'on choisit son sport, mais on peut exercer ailleurs ? Vous pouvez demain, non.
Il faut passer la spécialisation dans l'autre discipline.
Si vous voulez aller au tennis ou au basket, voilà, il faut passer la spécialisation. Ouais, d'accord.
Et donc, le diplôme est un peu plus complexe, parce que là, c'est toutes les réglementations qu'il faut connaître. Donc, FIFA, FFF, LFP, il y a même besoin de connaître le futsal, le beach soccer, etc. Donc, les dimensions des terrains, l'éclairage, il y a tout un tas de choses à connaître. Donc, c'est des milliers de pages à connaître par cœur, quoi.
D'accord. Et vous, ça a été votre cas, alors ? Ou vous êtes quand même passé par une école ? Bon, pas celle dont on parlait, mais...
Alors, pour ma part, c'est assez particulier. Je faisais des études de droit, sciences politiques et sociales à la fac.
Ah, pas mal.
Donc... ça m'a donné un avantage certain par rapport à d'autres qui n'ont pas fait ces études-là. Et j'ai commencé en parallèle à passer mes examens d'agent, que je n'ai pas réussi dès la première année, n'étant pas concentré complètement là-dessus. Et puis ensuite, j'ai fait de l'entrepreneuriat en école de commerce pendant 2 ans. Et pareil, je pense que c'est un atout supplémentaire. Entre le droit et la création d'entreprise, ça nous permet finalement d'arriver sur un métier comme le métier d'agent, où il faut monter sa structure, il faut savoir comment monter le business plan, savoir vraiment comment chapeauter la chose. Et le droit, c'est la base du métier. Donc finalement, moi, je m'y retrouvais parfaitement là-dedans.
Et vous, votre siège, donc, vous avez une agence qui est dans le 19e, c'est ça ?
Exactement.
C'est chez vous ou c'est un bureau ?
Le siège est chez moi, effectivement. On est une petite structure, Squad Agency.
Paris 19e, on va dire.
Paris 19e, effectivement. Ouais. Je bosse avec un associé qui s'appelle Charles Aclassou, qui travaille dans les académies du PSG, enfin, qui a travaillé pendant pas mal d'années et qui travaille encore aujourd'hui. Et donc, très honnêtement, j'ai pu bénéficier de ce réseau-là. Moi, en tant que jeune amoureux du foot, j'ai mis de côté complètement le foot pendant quelques années. Donc, je n'avais pas forcément de réseau pour commencer l'activité.
C'est
au gré des opportunités que finalement, j'ai avancé dedans. Parce que quand j'ai passé les diplômes, je ne me suis pas dit « je vais me lancer tout de suite dedans ». C'était dépendant d'un certain nombre de facteurs. Et la chance que j'ai eue, c'est qu'en sortant des examens, j'ai retrouvé une connaissance à moi qui voulait se lancer également.
Et ça, c'est le conseil que vous donnez à tous ceux qui voudraient s'y lancer. Je sais que LAG et Abou, ça les intéresse aussi un peu. Hein. C'est-à-dire, c'est d'avoir des réseaux. Parce que si on a l'examen qu'on n'a pas le réseau, c'est beaucoup plus compliqué.
Alors, l'examen, c'est comme un joueur qui rentre au centre de formation. Ouais. C'est la première étape. Bah donc après, il y a tout à faire. Effectivement, le réseau, c'est 90% de la chose. Pas que. Et j'ai pas envie de décourager ceux qui n'en ont pas. Parce qu'on peut toujours, à force de volonté, à force de rencontre,
c'est plus long.
Il faut se dire qu'un agent va mettre quand même un certain temps à gagner sa vie par rapport à ça. Et certains n'en vivent pas complètement.
Oui, parce qu'il faut le dire, certains ont 2 activités. C'est un ça. Peu
actuellement, c'est mon cas. Actuellement, c'est mon cas. J'ai pris un peu de recul l'année dernière pour des raisons personnelles. Et aujourd'hui, j'ai une activité qui me donne un fixe, tout simplement, pour avoir une stabilité. Ouais. Puisque
combien
c'est une activité qui dépend...
Combien on gagne ? En gros, 8-10% ? Alors, quelle marge ?
La marge, la commission de l'agent, elle peut être maximum de 10% en France.
D'accord.
Déjà, c'est plafonné, ce qui n'est pas le cas dans la plupart des pays européens.
Ah ouais, en Allemagne, en
Angleterre, il n'y a pas de plafond.
C'est pour ça que
Raiola, Mendes. En tout cas, dans beaucoup de pays européens, il n'y a pas de plafond et il n'y a pas l'obligation de passer le diplôme. Donc n'importe aussi, qui peut s'inscrire comme intermédiaire des affaires en Angleterre, par exemple. On paye une certaine somme, un certain montant, 700, 800 livres, et on peut devenir intermédiaire des affaires. Aujourd'hui, en France, il y a toujours le diplôme. Et j'ai envie de dire que c'est quand même un avantage, parce que finalement, même si... Il y a la fédération qui est derrière pour cadrer. Donc à un moment donné, s'il y a des problématiques, ils sont là aussi. Ce qui n'est pas le cas à l'étranger. Qui chapeaute, qui fait les choses, c'est peut-être la FIFA, mais ils n'arrivent pas à réguler le métier d'agent, donc c'est hyper complexe. Le diplôme, finalement, ça donne aussi une valeur à l'agent. Les gens peuvent s'assurer que la personne est compétente. Il y a beaucoup de conseillers en France. Le diplôme d'agent... prouve que la personne, en tout cas, a fait le nécessaire pour avoir les aptitudes pour exercer dans ce métier-là. Il y a des très bons conseillers, mais malheureusement, qui va vérifier leur activité ? Personne.
Et c'est à vie le métier ? Ou alors le diplôme ? Non. Au bout de 5 ans, il est fini.
Au bout de 5 ans, sans activité, il faut repasser le diplôme, effectivement.
D'accord.
Ouais, je voulais vous poser une question, je voulais savoir, est-ce qu'il y a des agents aujourd'hui dans leur méthodologie de travail ou dans leur carrière qui vous inspirent ?
Qui m'inspire, non, parce que je ne connais pas forcément l'histoire personnelle des gros agents. J'ai lu quelques bouquins sur certains agents anglais qui sont hyper intéressantes, mais je ne me suis pas attaché à un personnage en particulier. D'autant que la profession a beaucoup évolué, c'est-à-dire qu'il y a 30 ans, c'est beaucoup d'anciens journalistes qui étaient dans la profession, beaucoup de personnes qui étaient dans le football d'une manière ou d'une autre.
On en a
et
deux
qui sont
reconvertis. Qu'on a contacté, qu'on refusait comme les autres de venir, c'est Axel Lablatinière et puis Patrick Glanz, voilà, faut le dire.
Oui, mais finalement, c'est pas le même type d'agent qu'il y avait à l'époque qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a l'impression qu'un peu n'importe qui peut rentrer dedans. Avant, il y avait beaucoup moins de personnes. Il y avait peut-être, je dis une connerie, mais 30 à 50 agents qui avaient un espèce de monopole. Aujourd'hui, effectivement, il y a quelques agents importants en France, certains qu'on connaît. Et à côté de ces agents importants, il y a énormément de petits agents qui ont un joueur, deux joueurs et qui vont vivre de cette activité juste avec certains profils et pas forcément aller chercher d'autres. Donc il y a plein de façons d'exercer différentes, mais en tout cas, il n'y a pas un exemple en particulier qui m'a...
En tout cas, c'est un métier, pour ceux qui en vivent exclusivement, il n'y en a pas beaucoup quand même. Il faut le dire, il faut quand même
dire
au grand public.
Il n'y en a pas beaucoup, la plupart ont un boulot à côté. Comme je vous disais, il y en a beaucoup qui ont un seul joueur ou deux joueurs qui sont de la famille ou de l'entourage proche. Donc ces personnes-là ont souvent un métier à côté, sont parfois en reconversion professionnelle. Finalement, y a peu de gens qui en vivent. Il y en a peut-être 50 sur 400 agents en France.
En France, c'est ça. En France, vous êtes 400. Ça coûte cher, les écoles ?
Les écoles coûtent relativement cher, oui. Après, il y a différents types de cursus. L'avantage, c'est qu'il y a beaucoup d'écoles qui sont sorties de terre récemment, ces 5 dernières années. Il y en avait beaucoup moins avant. Le AJF était un peu la référence.
Première, je crois.
En termes de cours, de rencontres, c'est hyper intéressant. Par contre, effectivement, le coût est assez important. Il y a différents types de formules sur toute l'année, sur 6 mois. Donc, on peut adapter en fonction. Moi, personnellement, je suis passé par Amos, Amos Sport.
C'est une autre école.
Qui fait d'autres choses.
Qui fait les métiers du sport en général.
Les métiers du sport en général. Et j'ai fait seulement une formation accélérée. Vu que j'avais déjà des bases de droit et d'entrepreneuriat, je me suis permis de faire une formation qui m'a coûté
1200 euros. Et vous avez dit qu'il faut 14 sur 20 à la deuxième partie.
Hein. Exactement. Ouais. Il faut 14 sur 20 pour la partie spécifique, football. Donc, c'est pareil, QCM, cas pratique, mais assez complexe. Parce que, comme je vous l'ai dit, connaître l'intensité des lumières dans un stade, ça intéresse peu de gens. Et puis surtout, pour retenir toutes ces données,
c'est une façon
c'est
de faire
compliqué.
La sélection. Quoi, c'est
exactement.
Ça
exactement.
Et vous avez combien de joueurs actuellement, là ?
J'en ai 8 aujourd'hui.
D'accord. Et quel niveau ?
Un peu tout niveau. J'ai quelques gamins en centre de formation. J'ai des joueurs de 2e, 3e division étrangère. Je différencie aussi les joueurs avec qui je bosse et ceux avec qui on va faire des transferts l'été venu, puisqu'on va travailler surtout sur des cas de joueurs qui vont être des joueurs qui travaillent avec des partenaires à moi, des joueurs qui vont travailler avec des connaissances. Donc, on va, pendant la période de transfert, finalement, on a beaucoup de joueurs avec qui on échange et avec qui on travaille.
Oui. Alors, il y a fatalement une grande complicité, mais ça va des fois au-delà du simple football. On peut aussi s'occuper des affaires immobilières, d'assurance juridique du joueur.
D'une part, c'est de l'humain, forcément, il y a de l'attachement. On a une relation particulière avec chacun. Et après, il y a des agents qui s'occupent uniquement du sportif. Et il y en a d'autres qui font le choix, comme la plupart, j'ai envie de dire, vont gérer également l'image, le patrimoine, le côté fiscal, etc. Alors, faut savoir aussi les compétences qu'on a. Moi, personnellement, n'étant pas hyper cadré sur la question patrimoniale, le côté fiscal, on délègue à des personnes avec qui on travaille.
C'est ça, on peut se faire aider, quoi.
Exactement. Le métier d'agent, c'est surtout trouver les bonnes personnes au bon poste et trouver qui pourra nous accompagner dans notre activité. On a besoin d'une base assez solide de 5, 6, 7 personnes qui vont permettre derrière de gérer tout un tas d'activités.
Oui. En tout cas, ça donne un petit peu une bonne image, parce que c'est vrai que c'est assez sulfureux comme métier, c'est un petit peu nébuleux, c'est pas très bien connu, et puis malheureusement, beaucoup veulent pas en parler, quoi.
On entend beaucoup de choses, et c'est vrai que quand on parle d'agent, souvent on parle d'argent. On lit tout de suite agent à millionnaire, ce qui est loin d'être le cas. On parle que des plus importants, donc effectivement, ceux-là ont une vie qui n'a rien à voir avec la plupart des agents.
Il y a de la concurrence entre vous, carrément ou...
Elle est énorme, bien sûr. Par exemple, sur un très jeune joueur qui fait des bonnes performances dans son club amateur ou dans un club pro, à 12, 13 ans, à 14 ans, tout le monde le connaît déjà, donc... c'est hyper compliqué d'arriver comme un cheveu sur la soupe et essayer de le récupérer.
Qu'est-ce qui fait la différence ? L'humain ?
L'humain, les contacts, et puis finalement son réseau, ce qu'on lui permet de faire. Moi, ça m'est arrivé sur certains joueurs de proposer des essais en Ligue 2, mais il avait une opportunité qui payait beaucoup plus ailleurs. Donc il y a un choix qui est difficile à faire, hein, autant pour la famille que pour le joueur, puisque le joueur est amené à prendre plein de décisions, toutes qui paraissent évidentes pour certains, mais qui sont hyper complexes parce que c'est un changement de vie constant qu'on demande aux joueurs. Et puis parce que entre l'argent et la potentielle réussite sportive en Europe ou en France, parfois le choix n'est pas évident. Quand les parents sont en difficulté financière, parfois le choix de l'argent s'impose.
Bien sûr. Alors, Julien, il y a des échecs, il y a des réussites. Quelle est votre plus belle réussite et quel est votre plus gros échec ?
Alors, j'aime pas parler forcément donner des noms de joueurs. Les plus belles réussites, c'est d'arriver à cadrer complètement avec la volonté du joueur. Mmh. Et c'est hyper complexe parce qu'il y a tout un tas de facteurs qui viennent se greffer. Il y a tout un tas de personnes qu'on va contacter pour pouvoir trouver les bonnes opportunités. Donc finalement, la plus grosse réussite, j'espère que ce sera la prochaine.
C'est bien, c'est énorme. On connaît des gens de l'Atlético, donc on ne sait jamais pour Julien.
Des joueurs et là je crois que tes frères ils jouent au football, après peut-être que là tu lancerais et sera leur propre agent, mais c'est vrai que moi je voulais lui poser la question, est-ce qu'aujourd'hui vous parliez des agents un peu, Philippe parlait un peu de cette bulle nébuleuse et vous parliez un peu du métier d'agent, enfin il n'y a pas de parcours qui vous a marqué plus que ça, est-ce que le métier aujourd'hui il n'a pas moins d'attrait aussi même pour vous, est-ce que vous avez pris un an de pause pour des raisons personnelles, vous nous le racontiez tout à l'heure, est-ce que c'est un an aussi vous ont pas permis de vous remettre en question et de vous dire c'est peut-être pas le métier que je veux faire, ce qui s'y trouve actuellement c'est quelque chose qui me plaît pas et je m'y retrouve pas, c'est pas le métier en tout cas que je rêverais de faire, c'est pas celui-là.
Non, il y a beaucoup de plaisir dans ce métier, il y a des côtés compliqués, effectivement c'est un monde un peu de requin, hyper complexe parce que il y a une guéguerre, il y a toujours il y a une concurrence qui est assez féroce, mais c'est un métier plaisir malgré tout, on est dans la passion, on rencontre des gens qu'on a admirés quand on était jeune, on visite des stades, voir un match le week-end, moi, c'est toujours intéressant pour moi. Après, effectivement, on va plus regarder des matchs du dimanche avec des jeunes du petit club de quartier que le match Real-Barça. On regarde les matchs aussi différemment.
Et justement, comment se fait le choix des matchs ? Est-ce que les clubs vous appellent ? Est-ce que quelqu'un vous dit, tiens, ça serait bien que tu ailles voir tel match, tel jour ?
Oui, généralement. Ou tel joueur, ouais. Généralement, on est sollicité par nos partenaires, par des gens avec qui on travaille habituellement, même parfois par des gens qu'on ne connaît pas. Un exemple, ma mère qui est médecin, parfois elle a des patients fouteux et ils se posent des questions. Donc elle me les envoie. Et puis après, c'est à nous de faire le tri. Bien sûr, on reçoit des mails, des appels toute la journée. Oui, je suis un joueur de tel endroit, etc. La plupart du temps, on ne va pas y répondre parce que on n'a pas le temps de faire le tri entre tous les appels, tous les mails, etc. On va aller sur un terrain parce qu'un ami, une connaissance, quelqu'un du milieu va nous dire, voilà, tel joueur aujourd'hui est intéressant, il faut que tu ailles le voir et je te présenterai la famille ou on pourra envisager des choses après.
Ouais. Et vous l'avez dit, donc il y a le foot féminin aussi, puis il y a aussi d'autres disciplines comme le futsal ou même le beach. Vous avez aussi des joueurs que vous suivez ou joueuses ?
Alors, beach soccer, futsal,
pas trop.
Je m'y suis penché parce que j'ai pas forcément les contacts dans ce milieu-là. Côté féminin, ça a été un peu un point de départ pour moi parce que j'ai pu fréquenter Wang Shuang, qui était une joueuse chinoise qui est arrivée au Paris Saint-Germain il y a 4 ans de ça, il me semble. Et en fait, on me l'a présenté, donc ça m'a permis, moi qui me lançais un peu dans le milieu, de côtoyer un peu les joueuses du PSG, de connaître un peu le décor. Et puis, très honnêtement, l'idée au départ, c'était de gérer ses réseaux sociaux. On a géré sa page Instagram au départ. Mais ce n'est pas anecdotique, c'est que ça nous permettait aussi ensuite d'acquérir le côté sportif. C'était ça l'idée de travailler avec cette joueuse. On est passé de 2300 personnes sur Instagram à 23 000 en 2 mois à peu près. parce qu'elle a une notoriété en Chine et qu'en France, elle n'en avait pas du tout. On s'est dit qu'elle n'exploitait pas ce potentiel-là. Mmh. Donc, c'était une porte d'entrée au départ, ce qui a fait que derrière, je me suis un peu plus intéressé au foot féminin.
Alors, nous, on est passionné par le journalisme et par le sport. C'est un métier que vous recommandez. Même un jeune qui serait encore intéressé par le sport et par le foot, allez-y, devenez, malgré toutes les difficultés, tous les problèmes, agent de joueur.
Pour vivre
de sa passion.
C'est recommandé si la personne est vraiment déterminée et patiente. Dans le sens où il faut un certain nombre de mois, voire d'années, pour réussir un bon transfert et donc pour se rémunérer. Donc, généralement, ce que je conseille, c'est que en sortie d'études, c'est peut-être pas hyper intéressant de le faire tout de suite, plutôt de travailler pendant un certain temps pour avoir un peu d'argent de côté. Le métier d'agent, c'est beaucoup de déplacements, c'est beaucoup de frais. Et à un moment donné, si on n'a pas assez mis de côté, on peut se retrouver dans une situation où on ne se paye pas complètement et on n'a plus les moyens de faire les déplacements et de faire notre activité correctement. Il faut un bagage, notamment financier. Il faut aussi de la patience parce que parfois, certains agents, au bout de 2 ans, 3 ans, n'ont toujours pas réalisé de transfert, en tout cas de gros transferts qui soient rémunérateurs. Et donc, ça peut être compliqué de persévérer. Maintenant, chacun a sa limite. Et pour ceux qui sont persévérants, pour ceux qui ont vraiment envie, je pense que tout est possible. Tout est possible, même si rentrer dans un réseau peut paraître compliqué. À force de volonté et de rencontre, on y arrive.
Oui. Et vous préparez des fiches, des dossiers sur les joueurs ?
Oui, ça arrive.
Oui, bien sûr.
On fréquente tellement de joueurs, on rencontre tellement de personnes que parfois on peut un peu mélanger les choses. Moi, personnellement, j'ai besoin d'avoir une base sur laquelle m'appuyer, d'avoir des certitudes sur certaines choses.
Très bien. Allez, on va écouter la deuxième pause, Dossé avec Jamel. Et puis, vous voyez, on est très bavard. Hein, donc, on arrive à la fin de cette émission. On va parler basket, volley et donc sport mécanique avec Valentin qui vient d'arriver dans ce studio.
Je m'appelle Jamel, on me surnomme Poisson à cause d'un personnage du film Rai, je crois. Français, d'origine des Z, je viens de la cité des tilleuls à Blancoc, 9-3-35, balai, je bosse dans le textile. Ma petite marque, je développe doucement, tranquille, une après-midi banale sur Paris. Je suis pas loin de place de Clichy avec Laurie, une copine. Il fait vite fait frisquer, mais bon, c'est léger. Elle me parle de tout et de rien du taf qu'elle a délégué. Des impôts et du putain de climat qui fait que se dérégler. Il me dit qu'elle va pas tarder, donc je dis au serveur que je vais régler. J'ai juste le temps de finir de siroter mon revêt. À peine le riz parti, j'appelle mon prochain RDV. Jamila, ma soeur, c'est le sang. Voilà, crois pas que je rigole. Je lui dis de me rejoindre où je suis, pas loin de Batignolles. Elle me dit, viens, toi, s'te plaît, je peux pas me déplacer. Flemme, j'essaie de négocier vu qu'en plus je suis à pied. Bref, elle m'explique qu'elle est vers Bastille, dans un petit bar brasserie, que c'est la nif dynamique et que je n'ai qu'à venir. Finalement, je saute dans le métro le plus près. Tu dossais dans les écouteurs pour m'occuper. Dans les transports, au milieu des gens, je slalom. Je rejoins la ligne 9 et je descends à Charonne. 100 minutes de marche à pied, je suis à l'adresse indiquée. Je connais pas le lieu, première fois que j'y mets les pieds. Jamila me fait signe de les rejoindre en terrasse. Je m'approche, je lui fais une accolade, elle me présente à ses potes. Parmi eux, le boss des lieux, qui est aussi son ex-mari. Ainsi que celle dont c'est la nif, serveuse dans la petite brasserie, donc c'est à ses familles. L'ambiance est fun, je vais y rester un petit temps. On me demande ce que je veux boire, je dis que je voudrais bien un petit plan. Je suis en totale détente, limite il manque plus que le hamac, elle lâcherait carrément au max. J'aime bien jacter avec ma pote. Elle bosse chez Isabelle Marant. Un bon poste, alors elle me donne souvent des bêtes de tuyaux pour ma marque. Soudainement j'entends pac pac pac, le coup par coup avant qu'une rafale parte. Je me lève en sursaut pour voir d'où tout ce brouhaha vient. Au premier rang y'a un peu de monde, du coup je vois pas bien. Ça court dans la hurle, ça bride sous les porches, ça pleure et ça hurle comme des porcs qu'on égorge. À peine le temps d'entrevoir ce que je crois être une calache, que je me retrouve au sol comme clou et truc de malade. Je sais même pas si je suis touché ou si c'est pas réflexe. Je vois ma chair, mes os apparents, j'ai le bras en pièces. Je connais les guerres de rue, mais là c'est la guerre tout court. C'est quoi cet enfer, 5 minutes plus tôt c'était tout cool. Et je sais même pas si le gars est seul ou s'ils sont venus à plein. Tout ce que je sais c'est que putain je suis atteint. Autour c'est l'hécatombe, pendant que ça continue de tirer. T'as ce fou allié qu'avance en marchant sur les corps. En cherche de gens à finir, donc je fais mine d'être mort. Je me remange quelques balles, oh merde c'est quelque chose. Je sais même plus si j'ai mal. C'est comme si mon cerveau avait mis mes terminaisons nerveuses sur pause. Tout va si vite, pourtant ça me semble être une éternité. Alors ça y est, on parlera de moi en disant RIP. Je revois les gens qui m'aiment, je pense à ce que j'ai laissé filer. Est-ce que c'est ça que les gens appellent voir toute sa vie défiler? Puis les coups de feu cessent. Y'a comme un air de fin des temps. Les types remontent en caisse. Espère en criant que Dieu est grand. Je réalise que je suis encore vivant, en train de me vider de mon sang. Je veux me réveiller de ce cauchemar et voir que rien n'est réel dans cette soirée-là. J'appelle à l'aide et je fais que demander où est Jamila. Et je la vois à quelques mètres de moi, allongée sur le dos. Je m'appuie sur un de mes bras et me hisse jusqu'à elle. Je la sens me caresser le crâne du bout de ses doigts, comme pour me dire tout va bien, Jamel. Je me sens partir, donc faut que je me force à vivre. Les minutes passent et les secours arrivent. Me voilà sous perf, couverture de survie, masque à oxygène. Mais où est mon ami? Je suis dans l'ambulance, direction l'hôpital. Expédié en urgence, au bloc opératoire. Réveillé le lendemain, mon pronostic vital n'est plus engagé. C'est une première victoire, me voilà alité. Le bras gauche plein de broches et immobilisé. La jambe droite toute bandée, je sais même pas ce que j'ai. Mais ce qui est sûr, c'est que je sens plus mon pied. Avez-vous vu mon ami, s'il vous plaît? Mais Jamila nous avait déjà quittés. On est 7 piges après, j'ai le pied droit amputé. 13 novembre 2015, ma vie a basculé. La vérité, c'est que je suis miraculé. Et je dois la vivre à fond, cette vie-là. Celui qui se lève le matin, pose ses deux pieds sur le sol, ne se rend même pas un peu compte de la chance qu'il a. Mais moi, si, y a pas un jour que je pense pas à Jamila. Et aujourd'hui, j'ai une fille, je lui veux mon existence. Les vibes sont positives, j'ai appris la résilience. J'ai envie d'évasion, de voir commencer autre part. Le monde est vaste, Allahu Akbar.
Oui, cette émission, vous pourrez naturellement la réécouter en podcast, hein, très rapidement, comme toutes celles depuis le début de cette saison, et puis celles aussi de la semaine de la saison dernière, que vous pouvez aussi encore réécouter si vous ne l'avez pas fait. Vous aimez d'autres sports, Julien, que le foot, tous les sports d'une façon générale, non?
Oui, je m'intéresse en tout cas aux résultats de beaucoup de sports. Ouais. J'aime beaucoup le tennis et le basket, plutôt la NBA. Ouais. Très honnêtement, je ne regarde pas trop en Europe. Ouais. Mais j'essaie de regarder les résultats de manière globale d'un peu toutes les disciplines.
Voilà, alors parmi la salve de résultats qu'on a donné, hein, notamment en première partie sur le foot, il y avait aussi du volley, donc ça s'est pas bien passé aussi pour Paris, battu à Cambrai 3-0. Paris qui est pour l'instant dans le ventre mou, 9e du championnat avec Poitiers, Toulouse et le Plessis-Robinson 3 points. C'est Saint-Nazaire qui est en tête, premier avec 9 points, et Montpellier, le champion de France sortant, donc dernier avec 0 points. Et Montpellier, 14e et dernier avec 0 points, champion de France sortant.
Ouais, c'est ballot. Hein. Tu finis champion de France, tu finis dernier. C'est qu'il y a quelque chose de pas. La machine de raté. Ouais, dans la même, oui, et même dans la préparation estivale, il y a sûrement eu quelque chose de mal fait. Et pour Paris, j'ai envie de vous dire, c'est tous les clubs parisiens cette saison.
Ouais, à part le Paris Saint-Germain, très bien.
Le Paris Basket, ça va pas très bien. Alors, ça va pas très bien.
Alors, justement, le Paris Basket, messieurs, vous êtes des privilégiés. Hein. Vous êtes allés hier à Roland-Garros voir le match entre Monaco et Paris. Victoire de Monaco. 95-91. Ça a été un match qui au départ était complètement disproportionné, et puis finalement ça a été un match, Valentin et donc Abou, vous qui l'avez commenté sur Twitter, beaucoup plus équilibré qu'on ne le pensait.
Bah oui Philippe, déjà bonjour.
Oui bonjour.
C'était un match vraiment qu'on attendait parce que Paris, on se disait peut-être la première victoire ou peut-être une cinquième défaite d'affilée. Bon, à l'arrivée, c'est une cinquième défaite d'affilée face à Monaco qui est leader, logiquement. Abou, c'était son premier match de basket.
Oui.
Je peux vous dire qu'il a kiffé jusqu'à la dernière minute, il a adoré parce qu'on y a cru jusqu'à la fin. On s'est dit pourquoi pas une égalisation ou une victoire de Paris. Malheureusement, mauvaise remise en jeu. Bref, on a l'habitude avec les clubs parisiens. Une cinquième défaite d'affilée, et puis Monaco qui est exceptionnel cette saison avec 5 victoires d'affilée.
Il lançait quelque chose, hein. Il célébrait chaque panier de l'AS Monaco. Ouais. C'est incroyable, j'ai jamais vu quelqu'un célébrer autant des paniers.
Je viens du sud, et j'avoue que Monaco, en plus, Elie Okobo qui a rejoint Monaco cette saison, c'est mon petit chouchou quand il était en NBA. Donc bon.
On va rappeler qu'ils sont vice-champions de France, Monaco.
Face à Asvel, Elie Okobo est passé de Lyon où il a été champion face à Monaco, et il est passé à Monaco cette saison, donc ça marche plutôt pas mal.
Oui, alors il y avait 10 000 spectateurs sur Roland Garros.
124,
sur le court film Châtrier, on en a vu quelques images à la télé. Ouais.
Franchement, c'était impressionnant. Moi, je pensais qu'on allait avoir une petite foule, 5 000, 6 000 personnes. Et encore, parce que bon, c'est du basket français, c'est pas la NBA, grand spectacle, à Roland-Garros, donc en plus c'est délocalisé, c'est très différent, mais il y a eu beaucoup de monde et il y avait une ambiance vraiment folle, et c'était vraiment super
donc
sympa.
Donc Monaco qui est en tête avec 100% des points devant tout Le Mans et Bois 80%, et puis donc Paris et le Portel dit dernier avec 0%. Hein.
C'est ça.
Il y a un autre invité, je crois, qui voulait intervenir.
Si je peux me permettre, je trouve qu'on ne s'en rend pas assez compte, mais les ambiances dans le basket sont vraiment super
sympas. C'est exactement ce que je disais hier.
Et j'ai pu voir des matchs même de 4e, 5e division en basket, et les ambiances sont vraiment super agréables, super sympas. Il y a une atmosphère très particulière dans le basket, et je vous conseille d'aller voir des matchs de basket.
C'est exactement ce que je disais hier. En plus, je le disais à Valentin, moi, c'était mon premier match de basket, même dans ma vie, hein, hors du journalisme.
Mais t'en feras d'autres.
Et franchement, il y a une ambiance très, très sympa au basket.
Les ultras et tout sont
franchement. Ouais, la musique,
c'est un peu à l'américaine.
Les supporters, il y a vraiment une ambiance très
parce
sympa.
Il faut dire quand même à notre ami qu'on est quand même dans un arrondissement quand même assez, où on est assez gâté, puisqu'il y a le Paris Atlético donc, qui joue en national. On a le Paris Basketball qui joue à Carpentier, donc, qui est en l'élite du basket français, hein, même si c'est dernier. Le Paris FC donc, au foot. Et puis le Paris Volley qui joue aussi en bas à Charpie. Hein, donc vraiment, on est vraiment gâté. Ça devient quand même critique la situation. Alors, vous avez pu converser avec quand même l'équipe dirigeante. Comment on voit l'avenir ?
Très très compliqué. Nous, de ce qu'on a vu, c'était un match très rassurant, mais on a vu Juan Bergarin, qui est une future star NBA des Celtics, s'est exprimé sur le match ainsi que sur la symbolique de jouer à Roland Garros.
Alors, on y va.
On est sur une bonne directive, je dirais. Après, à chaque fois, les matchs ils sont serrés à la fin. Du coup, je pense qu'il manque très peu de détails. On continue à connaître chacun. Le coach continue à apprendre du championnat. Donc, je pense que petit à petit, ça va avancer. Et très bientôt, j'espère, on va réussir à prendre notre première victoire. Je ne sais pas si au niveau des Américains, il y a des gros fans de tennis.
Au niveau des Français
Je pense qu'on n'est pas des grands fans, mais on regarde quand même comme tout le monde. Le tennis, ça reste quand même un sport très regardé. Même moi, je regarde énormément de tennis avec mes parents, etc. Et au niveau des Américains, on leur a expliqué, puisqu'ils comprennent aussi assez rapidement, puisqu'il y a énormément de communication autour de ça. Donc je pense qu'eux-mêmes, ils se renseignent un peu pour savoir qu'est-ce que ça représente. Et puis on leur a expliqué que juste c'était le stade de tennis lorsqu'il y avait le plus gros tournoi mondial. Et du coup, ils ont vite compris que c'était quelque chose de très mythique et très important.
Voilà, oui, effectivement, c'est vrai que c'était une grande première, le basket sur Roland Garros.
Depuis 74 ans, c'était pas arrivé.
Ah oui, donc, on a eu de la boxe,
je crois, la dernière fois.
On a eu de la boxe, du padel, du biche volley, mais c'est vrai que le basket. Alors, c'est à renouveler parce que le Paris Basketball, le club qu'on avait reçu, c'est vrai qu'ils font 2-3 opérations comme ça extérieures. Donc, ça avait été Paris-Bercy il y a quelques, je crois, la saison dernière.
C'était la saison dernière.
Roland Garros. Il y a d'autres projets aussi.
Pour le moment, ça n'a pas été encore annoncé, mais ils ont commencé sur les réseaux sociaux un petit peu à teaser qu'il y allait avoir quelque chose. Parce que même ils ont vu l'ambiance qui était vraiment sympathique, toutes les stars, il y avait Basile Boli.
Était là. Oui, en plus, il n'avait plus qu'à traverser la rue après le soir.
C'est exactement ça.
Pour PSG Marseille.
Quand on voit la performance de jeunes joueurs comme Juan Margarin, qui a été le meilleur marqueur de l'équipe avec 28 points, 5 rebonds, qui a vraiment été présent dans tout le match et qu'on se dit que cette ambiance-là peut les aider à gagner enfin un match. Donc pourquoi pas, il faudrait jouer à Roland-Garros toutes les semaines en quelque sorte.
Alors comme on parlait de la valse des entraîneurs au foot, 5 entraîneurs limogés depuis le début de saison, il n'y a pas de risque du côté du basket. C'est une tradition aussi, si ça ne se passe pas bien les premières journées.
C'est moins que dans le foot où vraiment dans le foot on a virer l'entraîneur facile vraiment où c'est très simple alors que ça coûte des millions d'euros quand même à faire donc faut quand même être sûr financièrement. Certains clubs de Ligue 1 se sont mordus les doigts justement après ça et c'est vrai qu'au basket c'est un peu différent. En NBA bien sûr c'est comme la Ligue 1, on vire tout le monde parce qu'on a beaucoup d'argent, c'est le choix à l'américaine. Mais en Pro A et en France c'est un peu plus compliqué parce que les moyens sont déjà beaucoup moins colossaux et puis là pour le moment la direction du Paris FC a été rassurante en disant qu'ils allaient garder leur coach, qu'il manque, et on le voit dans le match, et Aboul a pu le voir, c'est que même face à une équipe qui est Monaco quand même, on le verra surtout mercredi, ils vont jouer l'Euro Cup pour la première fois de leur histoire, il manque des petits détails qui leur permettraient de marquer quelques 3 points, des petits shoots, ils sont là au rebond, il manque juste les petits lay-up ou les petits 2 points, 3 points, un peu fond de couloir qui pourraient les aider à remonter quoi.
Très bien, on va souhaiter bonne chance pour la suite et puis on va suivre cette équipe comme on le fait pour les autres équipes. Alors, je sais que Siabou a beaucoup travaillé, Valentin aussi, il a beaucoup travaillé. Il s'est levé le matin parce qu'il y avait, je crois, un Grand Prix moto.
À 5h du matin.
Et ça s'est mal passé pour Quartararo. Ça se complique à 2 Grands Prix de la fin.
C'est peut-être la chute décisive en fait, de ce championnat. Il ne reste plus que 2 courses. Donc, il reste la Malaisie, Valence, en MotoGP. Et c'est l'Espagnol Alex Rins qui s'est imposé à Philippe Island, devant son Marc Marquez et Francesco bien évidemment l'Italien qui n'arrêtait pas de courser Fabio Quartararo au championnat du monde. Et malheureusement, Fabio est tombé. Il a dû abandonner au bout du 11e tour parce qu'il a chuté. C'était déjà arrivé en 2019 au même endroit. Donc c'est un circuit qui lui convient vraiment pas. Et donc l'Italien a gagné 16 points et il a 14 longueurs d'avance sur Fabio.
233 contre 219. Hein, c'est pas gna-gna, donc voilà.
Donc c'est vraiment une saison historique pour le moment parce que c'est un peu comme l'année dernière, on a eu Max Verstappen, Lewis Hamilton en Formule 1 qui sont battus le titre jusqu'à la dernière course. Et là, on est bis repetita. Mm-hmm. Donc franchement, on espère que Fabio aura son deuxième titre. En plus, c'est en niçois, je l'espère fortement. Ouais. Mais ça va être compliqué, ça va être très compliqué.
Et pourtant il avait très bien commencé, il avait beaucoup d'avance au championnat.
Il avait super bien commencé, il a annoncé ce qui est assez triste à micro de Canal+, qu'il ne prend plus de plaisir et qu'il n'arrive plus à piloter cette moto qui est de plus en plus compliquée, qui est vraiment vicieuse et qui on le voit sur le virage, il prend le virage très très bien, tout se passe bien, il perd l'avant et à partir de ce moment-là, ça s'enchaîne.
C'est vrai que la notion de plaisir, c'est hyper important, on le voit au foot, ça compte aussi.
Bien sûr, bien sûr. Je ne sais pas pour qui vous parlez, ou pour les joueurs.
Non mais je veux dire, quand on prend un joueur, quand on s'occupe d'un joueur, voir qu'il a le plaisir, voir la sensation du plaisir.
Ah bien sûr, il y a une grosse problématique au football, c'est que les jeunes, les parents et l'entourage font en sorte de les professionnaliser beaucoup trop tôt.
Oui, c'est ça le problème.
Et il y a une perte de plaisir et beaucoup de jeunes en centre de formation n'ont plus cette envie, cette motivation. Voilà. Donc il faut faire très attention. Bien sûr, quand le gamin est en demande de plus d'entraînement, plus de choses, c'est possible et encore, il faut doser. Mais quand ça vient des parents, c'est très complexe parce que la notion de plaisir se perd justement.
Oui, bon, vous l'avez, vous êtes comme nous, donc là, il n'y a pas de problème.
Ah bien sûr, sinon on ne continuerait pas.
Voilà, allez, on va finir avec la Formule 1 parce qu'on n'avait pas parlé la semaine dernière. Verstappen, ça y est, c'est fait. Deuxième titre de champion du monde consécutif après un Grand Prix à Suzuka particulièrement mouvementé.
L'un des Grands Prix les plus dangereux de la saison et même on a revécu, malheureusement, on a failli vivre avec Pierre Gasly encore un drame.
Crie contre les arbitres pour les cartons, mais là où on peut crier
Là on est sur vraiment l'arbitre, football, on peut perdre une cheville, un genou, d'accord, mais là on parle de Pierre Gasly qui allait perdre la vie parce que le Grand Prix déjà devait débuter à 7h, il a commencé à 9h15 parce que premier tour, accident, Carlos Sainz qui perd sa voiture, bref, sous des conditions de pluie déjà qui sont plus que limites pour démarrer un Grand Prix, surtout au Japon on sait que c'est dangereux parce qu'en 2014 on a eu Jules Bianchi qui est décédé sous les mêmes conditions car il avait à 120 km/h rencontré malheureusement une grue qui ne devait pas être là. Et là le même scénario, une grue qui rentre pour déloger la voiture de Carlos Sainz et on ne sait pas pourquoi Pierre Gasly rentre au stand pour changer son aileron qu'il a cassé au premier tour et qu'il a reçu un panneau publicitaire clairement en face de lui. Heureusement que le halo était là. Et du coup, il se retrouve à faire le tour sous drapeau rouge. Donc, c'est illégal. La FIA aurait dû l'arrêter bien avant. Et il se retrouve à 250 km/h sur la piste. Et il évite de 1 ou 2 mètres environ la grue. Ouais. Et on le voit sur la caméra. Il rentre après au stand et il est furieux. Et la FIA a décidé de le pénaliser de 2 points sur sa super licence parce qu'apparemment, il n'a pas respecté les règles. Ce qui est un fait, il devait rouler à 250. Mais dans tous les cas, le drapeau rouge, il ne l'aurait pas vu, même s'il n'a pas le temps, même s'il va sur les freins assez vite pour éviter la grue, il perd la voiture et là, il se prend la grue. Donc dans tous les cas, il était piégé en quelque sorte, toute cette situation l'a piégé. Donc Max Verstappen, du coup, à la fin de cette course, qui a pu être relancé, est champion du monde dans le plus grand des silences, parce que ça aussi, il y a un petit souci. Les points en globalité ne devaient pas être attribués, parce qu'on n'a fait que 75% de la course. Donc la règle FIA dit que 75%, on doit avoir la moitié ou plus de la moitié des points attribués.
C'est arrivé dans certains Grands Prix, il y a des années. Lauda gagne d'un demi-point devant Prost.
Et du coup, on voit Charles qui est deuxième, on se dit, la bataille, elle est morte depuis très longtemps, mais pourquoi pas? Et malheureusement, dans le dernier tour, il se fait dépasser par Sergio Perez. On se dit que c'est pas le dernier tour, parce que plus que Max Verstappen a passé la ligne avant la fin du chronomètre, il y a encore 2 tours, c'est dans la règle FIA aussi. Malheureusement, la FIA décide d'arrêter. Du coup, tous les pilotes se retrouvent un petit peu, il reste 1 tour, 2 tours, on ne sait pas trop. Max Verstappen se retrouve du coup avec la conférence de presse et on lui apprend à ce moment-là que oui, il est champion du monde. Donc même lui ne le savait pas. Charles Leclerc ne savait même pas que les points en globalité allaient être attribués. Et lui, puis qu'il s'est fait dépasser dans ce qui devait être l'avant-avant-dernier tour, il s'est fait dépasser dans le dernier tour. du coup il perd la course au championnat. Donc un peu bizarre, bon, Max Verstappen est pour la deuxième fois champion du monde avec 32 victoires, comme Fernando Alonso. Donc
il reste 4 grands prix en plus, hein. ça compte pour du beurre quoi.
Ça compte pour quand même le titre constructeur, pas le titre constructeur mais la deuxième place. Entre
Red Bull et constructeurs, non ?
Ils ont 125 points d'avance, donc c'est assez conséquent, même plus je pense. Donc ça sera entre Ferrari et Mercedes, la deuxième place, et c'est quand même des millions en plus, donc ils vont jouer jusqu'au bout. Et bien évidemment Alpine et McLaren qui se battent pour la quatrième place. Très bon score des Français d'ailleurs ce week-end, Ocon qui a fini P4 et Hamilton P5, et puis Alonso P7, ça a été très très fort pour Alpine ce week-end.
Merci en tout cas, donc Valentin, merci à vous, belle soirée pour les 7 d'or. Hein.
Et vive Karim Benzema.
Voilà. Et puis on va remercier Julien d'avoir été notre invité. Vous voyez, ça s'est passé très vite, hein, donc tous nos invités sont pas venus, donc on a pu largement disséquer l'actu foot. On parlait basket et Formule 1, vous allez rester dans le foot un jour, peut-être devenir agent d'un pilote de Formule 1, d'un tennisman, d'un basketteur.
Il ne faut jamais dire jamais, on est sûr de rien, on apprécie d'autres sports, donc pourquoi pas. Ouais.
Hein. En tout cas, merci pour votre présence, hein, et merci d'être venu éclairer en tout cas le métier d'agent de joueur. En tout cas.
C'était un plaisir, voilà. Merci.
Merci à Jason d'avoir été nouvelle fois l'artiste. Aux manettes, donc... au cours de cette émission ce soir. Et puis rendez-vous la semaine prochaine sur Mon Paris FM. Je vous laisse avec HP Coupé pour la fin de cette émission. Bonne soirée, à la semaine prochaine.
La pépite, les chics arrondissements de Paris. Les jolies filles se trouvent à Babi. La nourrice s'occupe bien du bébé. Interdit de quitter le territoire. Ma chérie veut bouger, c'est terrible. Ma chérie veut bouger, c'est terrible. Sonderman ne fait que sa mougane. Sonderman ne fait que sa mougane. Hamdoulaye tord la bécane. Hamdoulaye tord la bécane. Énervé, je sors en ferral. Mais du coup, on voit la suite là. Darien, viens pas nous la ferral. Darien, viens pas nous la ferral. Bâtard veut pas payer là, on va se faire découper. J'aime trop quand les bolos s'appellent, ça va chiffrer. Si ce bâtard veut pas payer là, oh, on va se faire découper. On aime trop quand les bolos s'appellent, ça va chiffrer. Couper, à couper, couper, détailler, à détailler. Tosma qui rapporte, dérangé par les ports. Je veux un Porsche, faut que ça brille, je veux du Dior. On fait les mic, ma caisse est pour rien, on la mort. Ça va dégainer, pour sauver le rinté, ça va dégainer. Faudra pas bégayer, pour sauver le rinté, faudra pas bégayer. Le salaire à Cristiano, fucking CR, on dira pas un mot. La patate d'Adriano, l'empire revient comme toutes les anciennes go. On a vendu ses boutiques, on a porté du Gucci. On est bien loin de Pablo, on va pas te raconter Gucci. Si ce bâtard veut pas payer là, on va se faire découper. J'aime trop quand les bolos s'appellent, ça va chiffrer. Si ce bâtard veut pas payer là, oh, on va se faire découper. On aime trop quand les bolos s'appellent, ça va chiffrer. Couper, à couper, détailler, à détailler. Couper.